السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc, حياكم الله عز وجل en cette soirée du mercredi 11 Rabi al-Thani 1437 de l'Hijr, correspondant au 20 janvier 2016, بإذن الله تعالى. Nous sommes, inshallah ta'ala, donc avec toujours le 40e cours du mal et du remède. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider afin que la connexion ne se coupe pas et qu'on puisse terminer le cours. Tayyib. Donc, est-ce que vous m'entendez bien, inshallah ta'ala? Est-ce que vous m'entendez bien? Alhamdulillah. Donc, vous avez remarqué que ce cours, le 40e, on l'a fait deux fois et ça n'a pas marché. Je n'ai pas pu le terminer deux fois. Donc aujourd'hui, c'est la troisième fois, inshallah ta'ala. Donc ce que je vais faire, inshallah ta'ala, je vais donc le recommencer du début. Comme ça, si ça a marché, je le termine. Les admins n'ont pas besoin de garder les deux cours précédents. C'est-à-dire que c'est celui-là, le 40e cours, bi'idhnillahi ta'ala. Ça y est. Nuqayyim alayhi rahmatullahi ta'ala dit: si on demande malgré tout cela, existe-t-il un remède à ce mal gravissime? Qui est quoi? Le remède à l'homosexualité. C'est ça le titre, le remède à l'homosexualité. Si on demande malgré tout cela, existe-t-il un remède à ce mal gravissime? Une ruqya pour cette sorcellerie mortelle, un moyen de repousser cette folie, un chemin menant à la réussite. Est-il possible à celui qui est ivre de ses passions de se réveiller? L'amoureux fou maîtrise-t-il son cœur lorsque la passion est parvenue à ses tréfonds? Le médecin a-t-il les moyens après cela de soigner son mal? Si quelqu'un le blâme, se délectera-t-il de son blâme en se souvenant de son bien-aimé? Et si quelqu'un le désapprouve, cela l'incitera-t-il afin qu'il chemine vers son objectif, appelant celui qui voit sa condition en disant, la passion m'a amené jusqu'à toi et elle ne me permet plus maintenant d'avancer ni de reculer. Tu ne cesses de m'humilier et je m'avilis plus encore, car ceux qui ont peu de valeur à tes yeux ne méritent pas le respect. Tu te comportes comme mes ennemis et je me suis mis alors à les aimer, car ton attitude et la leur à mon égard sont identiques. Les reproches qu'on me fait en raison de ma passion pour toi sont un vrai délice, car ils sont un moyen de me rappeler de toi. Multipliez donc les reproches. Nuqayyim dit, et c'est peut-être là le but de la première question pour laquelle on a interrogé et le mal pour lequel on a demandé ce remède. On a dit qu'effectivement il existait un remède. Et la réponse découle de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah n'a pas fait descendre une maladie sans lui attribuer un remède, connu de certains et ignoré d'autres. Voir Sisila Sahiha, numéro 451. On doit aborder le remède à ce mal de deux manières. La première consiste à supprimer son substrat avant qu'il ne survienne. Et la deuxième, à l'extraire après qu'il soit apparu. Non. On dit ça à peu près, on dit la prévention et la guérison. C'est-à-dire prévenir avant qu'il n'arrive. Et maintenant, s'il arrive, on essaye de le soigner bi'idhnillahi ta'ala. Ces deux choses sont aisées pour celui à qui Allah Azza wa Jalla le facilite, et ardues pour celui auquel il ne vient pas en aide. Car les reins de toutes choses sont dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Concernant la manière d'empêcher ce mal de survenir, elle réside en deux choses. La première consiste à baisser le regard, ainsi qu'il a précédé. Car le regard est une des flèches empoisonnées d'Iblis. Et celui qui laisse vaquer son regard verra son malheur perdurer. Le fait de baisser le regard comporte de nombreux bienfaits. Et cela représente une partie du remède efficace bi'idhnillahi ta'ala. Maintenant, il va citer quels sont les bienfaits du fait de baisser le regard. Bien sûr, baisser le regard du haram. Il va citer 10. Attendez, je vais vérifier. Il va citer 9, 10. Il va citer 10 bienfaits. 10 bienfaits du fait, bi'idhnillahi ta'ala, de baisser le regard, inshallah ta'ala. Il dit, le premier est que c'est une conformation à l'ordre d'Allah Azza wa Jal qui représente le sommet de la réussite de l'homme en cette vie et dans l'au-delà. Ça, baisser le regard, c'est quoi? C'est déjà une confirmation à l'ordre d'Allah. Déjà, qu'est-ce que tu as fait? Tu viens de répondre à quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala vient de te demander. Il a demandé de baisser ton regard. Déjà, tu viens de te conformer à son ordre. Masha'Allah. Déjà, ça, c'est suffisant. L'homme ne dispose pas d'une chose meilleure en cette vie, dans l'au-delà, que la conformation au commandement de son Seigneur Azza wa Jal. Ceux qui ont été bienheureux en ce bas monde et dans l'au-delà ne l'ont été qu'en se conformant à ses commandements. Et ceux qui ont été malheureux en ce bas monde et dans l'au-delà ne l'ont été qu'en négligeant ses commandements. C'est ça le résumé. Aucune personne n'a été heureuse dans ce bas monde et l'au-delà que, sauf la personne qui se conformait au commandement d'Allah Azza wa Jalla. Et aucune personne n'a été malheureuse dans ce bas monde et dans l'au-delà, sauf la personne qui ne se conformait pas au commandement d'Allah Azza wa Jalla. Le deuxième bienfait, c'est que cela empêche l'effet de la de la flèche empoisonnée qui peut entraîner sa perte. Donc ça empêche l'effet de la flèche empoisonnée de parvenir à son cœur. Quand je baisse mon regard, Iblis qui a déjà pris de l'arc et a mis sa flèche empoisonnée et a visé mon cœur, il n'attendait que se précipiter, se hâter pour laisser sortir la flèche de l'arc et atteindre mon cœur. Mais maintenant, quand j'ai baissé mon regard, c'est trop tard pour lui. Ou bien il ne peut plus actionner et faire parvenir la flèche à mon cœur, ou bien la flèche sortira de l'arc mais ne peut pas atteindre mon cœur. Elle va aller comme ça dans l'air mais ne va pas atteindre mon cœur. Le troisième bienfait est que cela amène au cœur rapprochement et union avec Allah Azza wa Jal. Car le fait de laisser vaquer le regard sépare et disloque le cœur et l'éloigne d'Allah. Et il n'y a pas pour le cœur de choses plus nuisibles que de laisser vaquer le regard. Car cela suscite une séparation entre l'homme et son Seigneur. Des fois la personne reste un mois ou deux mois ou trois mois à travailler sa piété, à surveiller son cœur. Ensuite maintenant, en une minute c'est tout, ou quelques secondes, elle va voir quelque chose de haram. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va séparer et disloquer son cœur. Ça va quoi? Ça va lui casser tout le travail qu'il a fait pendant peut-être des mois. Peut-être un mois qu'il travaille, maintenant il doit recommencer à zéro. Il sent maintenant du chagrin dans son cœur. Il sent quelque chose. Il n'y a plus la douceur. La douceur de la foi, il vient de la casser. Il sent plutôt des... Il est oppressé. Il sent de la dureté. Ils sont même un penchant maintenant vers la chose qu'ils viennent de voir de haram. Barallahu ma shafa'al. À cause de quoi? À cause d'un petit regard de quelques secondes. La troisième, le troisième, le troisième, et que cela, le troisième, troisième bienfait, et que cela amène au cœur rapprochement et union avec Allah. Car le fait de laisser vaquer le regard, c'est-à-dire qu'on l'a lu. Ça on l'a lu. Le quatrième bienfait. Et que cela renforce et réjouit le cœur, de la même manière que le fait de laisser vaquer le regard l'affaiblit et l'attriste. Naam. Maintenant que tu as délaissé quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, donc Allah subhanahu wa ta'ala va te donner quelque chose, en compensation. Il va donner quelque chose. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va renforcer et réjouir ton cœur, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Le cinquième bienfait est que cela suscite une lumière dans le cœur. Ça marche avec le quatrième bienfait. La chose qu'il va te donner, c'est renforcement du cœur et en même temps une lumière. De la même manière que le fait de laisser vaquer le regard le plonge dans les ténèbres. C'est pour cette raison que Allah Azza wa Jal a mentionné le verset de la lumière, Sourate An-Nur, Naam Allahu Nur Samawati wal Ard, juste après l'ordre de baisser le regard. Ainsi, lorsqu'il a dit, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُ فُرُوجَهُمْ, c'est-à-dire, dit aux croyants de baisser le regard, et de préserver leur chasteté, Sourate An-Nur, verset 30. Naam. Juste après cela, il a dit, اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاتٍ فِيهَا مِصْبَاحٍ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ. Et le verset. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La niche, c'est le cœur du croyant, où se trouve une lampe. Naam. Où se trouve une lampe. Ou alors la niche, c'est la poitrine. Et la lampe, c'est le cœur. Naam. Il dit, c'est-à-dire l'exemple de sa lumière dans le cœur de son serviteur croyant qui se conforme à ses commandements et s'éloigne de ses interdits. C'est ça le verset. Et si le cœur s'illumine, les délégations du bien viennent à lui de toutes parts. De même que si le cœur s'assombrit, Naam, viennent à lui les nuages des fléaux et du mal de toutes parts. Naam. Donc si le cœur s'illumine, alhamdoulilah, les délégations du bien vont venir de toutes parts. Naam. Il va se sentir heureux, il va se sentir gai. Mashallah, il va se sentir joyeux. Naam. Il va se sentir yani, le plus heureux des gens. Pourquoi? Car le cœur s'est illuminé et maintenant toutes les délégations du bien vont venir de tous les côtés vers ce cœur. Et si maintenant le cœur s'est assombri, ce qui va se passer, c'est le contraire. Toutes les délégations du mal vont venir. Tous les nuages des fléaux du mal vont venir vers ce cœur pour le cerner de toutes parts. Dulqiyim dit, rahmatullah, toutes les innovations et égarements, le suivi des passions, l'éloignement vis-à-vis de la guidée, le détournement vis-à-vis des causes de la réussite, l'affairement aux causes du malheur, tout ceci est dissipé par la lumière qui se trouve dans le cœur. Et s'il perd cette lumière, l'homme demeure tel aveugle qui sonde les ténèbres. C'est très grave. C'est très grave quand la personne perd la lumière du cœur. C'est un peu, un bateau jeté au milieu de l'océan, en pleine nuit, dans des ténèbres sur ténèbres, des grandes vagues, une grande houle, et il n'y a pas de boussole. On te dit, débrouille-toi, va soit vers, continue vers l'avant, ou bien fais marche arrière, ou bien va vers la droite, ou bien va vers la gauche. Choisis comme ça par hasard et roule, et vague. Non, c'est pas possible. Et vogue à fond. C'est pas possible. S'il n'y a pas la boussole, c'est pas possible. Autrefois, il n'y avait pas la boussole, mais il y avait des gens qui connaissaient vraiment yani, comment se guider, se faire guider par les étoiles, par certaines étoiles. Mais si tu n'as ni la boussole, ni tu ne sais te faire guider par les étoiles, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que peut-être tu vas prendre à droite. Alors, en prenant à droite, qu'est-ce qui va se passer? C'est tu vas vers le milieu de l'océan. Alors que, yani, le bord se trouvait à gauche. Tu as pris exactement le contraire. Quelqu'un qui n'a plus la lumière dans le cœur ou qui ne l'a pas, c'est un miskin. C'est un miskin. Il dit n'importe quoi. Il fait n'importe quoi. Il fait même ce qui est contraire à ses intérêts. Et il croit, en plus de cela, si au moins, yani, il se trompe, il reconnaît. Mais le problème, yani, il fait le contraire, il fait tout le mal en croyant qu'il est en train de faire le bien. Comme a dit Allah Azza wa Jal, الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Dans un autre verset, فريقا هدى وفريقا قد حقت عليهم الضلالة. حقت عليهم الضلالة. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit فريقا هدى وفريقا حقت عليهم الضلالة. Qu'est-ce qu'il a dit ensuite? Il a dit, à la fin il a dit ويحسبون أنهم مهتدون. Ils font des choses qui ne sont pas bien. Malgré cela, يحسبون أنهم مهتدون. Attendez, je cherche le verset dans ma tête. فريقا هدى وفريقا حقت عليهم الضلالة. Je ne l'ai pas trouvé. Une seconde, je le cherche maintenant dans le programme. Je ne l'ai pas trouvé dans ma tête. Une seconde, بإذن الله. فريقا هدى وفريقت. Une seconde. فريقا هذا فريقا هذا فريقا هذا هذا bon, il a dit فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. Donc il parle d'un groupe, il a dit ils ont pris les شياطين comme يعني les أولياء, comme ce sont eux qui يعني ils leur montrent ce qu'ils doivent faire et les guides etc. Donc ils ont pris des shayatin et ils croient qu'ils sont sur le bon chemin, sur la guidée. Le sixième bienfait bi'idhnillahi ta'ala est que cela lui apporte une intuition véridique par laquelle il distingue le vrai du faux. Le véridique du menteur. Voilà, c'est ce que j'ai voulu dire. Ça se trouve dans le sixième. C'est-à-dire la lumière que Allah ta'ala donne à celui qui se conforme au commandement d'Allah Azza wa Jal, et par conséquent baisse le regard du haram, donc Allah Ta'ala va lui donner une intuition avec laquelle ça lui permettra de distinguer le vrai du faux, le véridique du menteur, la sunna de la bid'a, la guidée de la perdition. Et comme ça, subhanallah al-adim, Ibn Shuja' al-Karmani disait, écoutez ce qu'il dit. Celui qui constamment reste en conformité à la sunna, en apparence, garde à l'esprit la surveillance d'Allah Azza wa Jal, baisse le regard devant les interdits, s'abstient des ambiguïtés et se nourrit du licite, son intuition ne le trompera jamais. Subhanallah. Non. Je répète. Celui qui constamment reste en conformité avec la sunna, En apparence, garde à l'esprit la surveillance d'Allah Azza wa Jal, baisse le regard devant les interdits, s'abstient des ambiguïtés et se nourrit du licite, alors son intuition ne le trompera jamais. Et c'est connu, les salafs connaissent et sont unanimes pour dire que il y a quelque chose qu'on appelle le sixième sens, yani, ça s'appelle l'intuition. En arabe, ça s'appelle firasa. Allah Azza wa Jal la donne, yani, à certains de ses alliés. Naam. Et parmi celui qui avait le firasa, très connu, muhaddath, naam, c'est qui? Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Yani, des fois même, avant que le verset ne descende, il disait une chose et le verset descendait exactement, yani, comme il pensait. Exactement comme il pensait. Il y a même un verset, attendez une seconde, je cherche ce verset. Allah Ta'ala a dit, inna fi dhalika la ayatan li mutawassimin. Mutawassimin, c'est-à-dire ceux qui ont, yani, tawassum, ceux qui ont le firasa et ceux qui ont l'intuition. L'intuition permet de, quand tu parles avec quelqu'un, de savoir par exemple que ce qu'il dit c'est un menteur celui-là. Cette personne, faut pas lui faire confiance. Cette personne, C'est une personne, masha'Allah. Non, cette chose-là, c'est une bida. Cette chose, c'est une sunna. Et comme ça. Subhanallah l'adim. Elle est donnée par quoi? Par une lumière que Allah Ta'ala met dans le cœur du croyant. Le cœur du savant. Le cœur de celui qui fait des efforts pour se conformer. Se conformer aux ordres d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. S'éloigner des interdits. C'est une aide d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. C'est une karama que Allah Ta'ala donne aux croyants. Donne aux croyants. Bien sûr. Pas tous les gens peuvent avoir cette chose. Mais il n'y a personne qui peut être exempt. C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose qui dit que je ne la donne pas à X ou Y. Non, moi, toi, lui, l'autre, tout le monde peut l'avoir. Juste, il faut remplir les conditions et faire le maximum pour se rapprocher d'Allah et s'éloigner des interdits. Alors Allah Ta'ala donne cette lumière dans le cœur qui aide beaucoup. Qui aide beaucoup, bi'idhnillah Ta'ala. Et Shuja, rahimahullah ta'ala, n'était jamais trompé par son intuition. Allah Azza wa Jal accorde au serviteur une rétribution correspondant au type d'acte qu'il accomplissait. Et celui qui délaisse une chose pour Allah, il la lui remplace par une chose meilleure encore. Non. Ainsi, s'il baisse le regard devant les interdits d'Allah, il lui remplace cela en lui accordant la lumière de sa clairvoyance pour avoir retenu son regard pour Allah Azza wa Jal. Et il lui ouvre la porte de la science, de la foi, de la connaissance et de l'intuition véridique et juste qui ne peut être atteinte que par la clairvoyance du cœur bi'idhnillahi ta'ala. Une seconde, inshallah ta'ala, une seconde. À l'inverse, se trouve l'aveuglement, qui est l'opposé de la clairvoyance, par lequel Allah Azza wa Jalla a décrit les homosexuels. Lorsqu'il a dit dans le Coran, la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Sourate Al-Hijj, verset 72. C'est-à-dire, par ta vie, ô Muhammad. Allah Ta'ala vient de jurer. Il dit, par ta vie, ô Muhammad. Ils s'aveuglent dans leur ivresse. En parlant des homosexuels. Par ta vie, ô Muhammad. Ils s'aveuglent dans leur ivresse. Remarquez le verbe, ils s'aveuglent. Remarquez le verbe. Il s'aveugle. Quand on croyant le four, qu'est-ce qu'il a dit un peu plus haut? Sorte la lumière. Allah nur samawati wal ard. Il a cité après avoir dit qu'il fallait se conformer aux ordres d'Allah et baisser le regard. S'il y a conformité, alors Allah subhanahu wa ta'ala donne la lumière au cœur. S'il y a maintenant désobéissance, et il y a les grands péchés, il y a l'homosexualité, il y a quoi? Il y a l'aveuglement et l'ivresse. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Il les a, Ibn al-Qayyim dit, rahimahullah, il les a ainsi décrits par l'ivresse qui est la corruption de la raison, l'aveuglement de la clairvoyance et l'ivresse du cœur. Comme il a été dit, deux ivresses, celle de mes passions et celle du vin. Quand se réveillera celui qui souffre de deux ivresses? Quelqu'un a dit, je répète, deux ivresses, celle de mes passions et celle du vin. Et quand se réveillera celui qui souffre des deux ivresses? Ça veut dire, il ne peut se réveiller jamais. Deux ivresses. Il a celle des passions et celle du vin. Quand est-ce qu'il peut se réveiller? Il ne peut pas. Naam. Et celle des passions est plus difficile que celle du vin, comme vous le savez. Naam. Et un autre a dit, ils m'ont dit, la passion pour celle que tu aimes t'a rendu fou. Et je leur ai dit, la folie amoureuse est plus grande encore que ce qui frappe les fous. On ne se réveille jamais de la folie amoureuse, alors que le fou n'est atteint qu'un moment. Non. Je répète, ils m'ont dit, la passion pour celle que tu aimes t'a rendu fou. Et je leur ai dit, la folie amoureuse est plus grande encore que ce qui frappe les fous. Pourquoi? On ne se réveille jamais de la folie amoureuse alors que le fou n'est atteint qu'un moment. Subhanallah al-Azim. Que Allah nous préserve. Septième bienfait. C'est que cela apporte au cœur fermeté, courage et force. Ainsi, Allah Azza wa Jalla a lié le pouvoir de la clairvoyance à la preuve. Et le pouvoir de l'autorité à la force. Comme il a été dit, celui qui s'oppose à ses passions, le shaitan craint son ombre. Naam. Propos attribués à Wahb ibn Munabbih. Voir Al-Hilya, tome page 40, tome page, tome 4, page 60. Celui qui s'oppose à ses passions, Shaitan craint son nombre. Quand quelqu'un mène une guerre et déclare une guerre à ses passions, Wallah al-Azim, le Shaitan aura peur de lui, pas seulement de lui, de son nombre. Le Shaitan voit son nombre. Regardez Omar al-Khattab radiallahu ta'ala anhu. Comme a dit le prophète, il lui a dit, tu n'es pas sur un trottoir sans que Shaitan, s'il te rencontre, ne change de trottoir. Comme a dit à peu près le prophète, tu marches dans une rue, si Shaitan se trouvait dans cette rue, il change. Il ne peut même pas, il n'a même pas le courage de te rencontrer en face et de te voir. Pourquoi? Omar Mukhtab radiallahu ta'ala anhu, c'est une lumière. Non. Il ne sait que obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout ce qu'il sait. Il n'a pas autre chose dans son cœur et dans ses projets. Seulement obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et s'éloigner au maximum de ce que Allah azza wa jalla a interdit. Quand quelqu'un devient comme ça, le shaitan ne peut plus, naam, le rencontrer. Alors qu'en est-il qui le possède? Qui le possède? Est-ce que Shaitan yani, peut posséder et rentrer dans le corps de quelqu'un qui est lumière sur lumière? Non. C'est pas possible. Je ne sais pas si vous m'entendez. Maintenant, il me dit que... Échec. Vous m'entendez? Oui, bon, alhamdoulilah que vous m'entendez. On constate, d'Ibn al-Qayyim, l'inverse chez celui qui se conforme à ses passions. Qu'est-ce qu'on constate chez le premier, celui qui se conforme, celui qui se conforme aux ordres d'Allah, qu'est-ce qu'on constate? Fermeté, naam, courage, force dans le cœur. Et maintenant, qu'est-ce qu'on constate chez celui qui ne se conforme pas? Ou alors chez celui qui se conforme à ses passions? On constate humiliation, rabaissement, mépris et bassesse de l'âme. Que Allah Azza wa Jalla suscite en celui qui lui désobéit. Si quelqu'un va dire, Subhanallah al-Azim, mais quand on voit le contraire. On voit ceux qui font les grands péchés et les stars et je ne sais qui, on les voit ils sont joyeux, ils sont gays, ils sont machin. Non, ils sont joyeux, ils sont gays, ils sont heureux. Mais, c'est-à-dire, par rapport à ce qu'on voit nous, dans les apparences, si tu voyais les soucis qu'ils avaient dans les cœurs, les soucis qu'ils ont dans le cœur, si tu voyais, naam, ce qu'ils ressentent, naam, quand ils sont seuls, si tu voyais comment ils passent leur nuit, alors sinon, dis-moi pourquoi beaucoup d'entre eux se suicident. Pourquoi? Ils ont tout. Puisqu'ils sont joyeux, comme tu dis, pourquoi ils se suicident? Tu as vu quelqu'un de joyeux se jeter et se suicider? Pourquoi ils font toutes ces dépressions? Pourquoi? Pourquoi ils vivent avec des crachés qu'ils boivent? Pourquoi une fois par semaine ils vont à l'hôpital? Pourquoi? Non. Et ça, c'est bien sûr. C'est quoi? C'est, yani, on ne sait pas ce qui va arriver encore. Ça, c'est ce qu'on sait d'eux. Qu'est-ce qui va arriver encore? Et comment va être leur fin? Tout ça, on ne le sait pas. Et est-ce que tu crois que quelqu'un qui du matin au soir désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala va lui donner le bonheur? Jamais. Allah ta'ala va lui donner la richesse. Naam. Plein d'argent, plein de ceci, cela. Mais pourquoi aussi? Pour qu'il ne se réveille pas. Pour que, justement, il ne se réveille pas. Non. Ils passent leur vie dans l'alcool et la drogue. Dans l'ivresse. Du matin au soir. Quand ils vont se réveiller, trop tard. Ils sont dans la tombe. Trop tard pour eux. Non. Ici, il dit, Écoutez ce que dit, Hassan Basri, rahimahullah ta'ala. Écoutez ce que dit Hassan Basri, rahimahullah ta'ala, ce qu'il a dit. Il a dit, en parlant d'eux, des pêcheurs, il a dit, ils ont beau se pavaner sur leurs mules et parader à d'autres chevals. L'avilissement du péché leur fait courber les chines. Allahu Akbar. Ils ont beau se pavaner sur leurs mules et parader à d'autres chevals. On va dire de nos jours, ils ont beau se pavaner sur leur Mercedes dernier modèle, sur leur limousine, ils ont beau se pavaner, mais l'avilissement du péché leur fait courber les chines. Ibn al-Qayyim dit, en effet, Allah Azza wa Jal humilie toujours celui qui lui désobéit. Allah Ta'ala dit dans un verset, dommage ici, Ibn al-Qayyim ne l'a pas cité, dommage, donnez-moi une seconde, je vais ouvrir un programme qui me donne les versets, où Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَمَنْ يُهِنِ اللَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ. Attendez, qu'est-ce que ça donne en français? وَمَنْ يُهِنِ اللَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ. Naam, regardez ce verset. وَمَنْ يُهِنِ اللَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ. Mais si je peux le trouver ici, c'est étonnant. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَمَنْ يُهِنِ اللَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ. وَمَنْ يُهِنِ اللَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ. Ah, طيب, صح. C'est moi qui me suis trompé, c'est pas le mu'minun. Une seconde, c'est moi qui me suis trompé. Naam. وَمَنْ يُهِنِ اللَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ. Voilà le verset. Al-Hajj 18. Al-Hajj 18. Regardez, je vais le donner en arabe et en français. Comme ça. Copiez. Dites-moi si vous pouvez le voir. Dites-moi si vous pouvez le voir. Car il est assez long. Assez long. Naam, dites-moi si vous pouvez le voir. Je vais essayer de le mettre en bleu. Hein? N'as-tu pas vu que. Alhamdoulilah, n'as-tu pas vu que c'est devant là que se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et tous ceux qui sont sur la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux, ainsi que beaucoup de gens. Il y en a aussi beaucoup qui méritent le châtiment. Et voilà le témoin, et quiconque Allah a vidé n'a personne pour l'honorer, car Allah fait ce qu'il veut. Donc le témoin, et quiconque Allah Ta'ala a vidé n'a personne pour l'honorer. Quand Allah Ta'ala a vidé quelqu'un, tous les gens du monde, tous les milliardaires, toutes les stars, toutes ne peuvent l'honorer. Même s'ils lui disent du matin au soir, tu es mashallah, tu es ceci, tu es beau, tu es rien. Rien, hein, pourquoi? Et quiconque Allah Ta'ala avilit n'a personne pour l'honorer. Il y a un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il a dit que Allah Ta'ala, il a dit en ce sens, que Allah Ta'ala a fait yani, rizqahu, sa subsistance sous l'ombre de l'épée. Ensuite, il a dit, wa katab al-dhul. Allah Ta'ala a écrit l'avilissement liman khalafa amri, pour quiconque me désobéit. Quiconque yani, ne se conforme pas à mon ordre. Comme ça a dit le prophète, quiconque contradit mon ordre. Quand je dis quelque chose, il l'a contredit, celui-là, Allah Ta'ala, lui a écrit l'avilissement. Naam. Wa kataba dhul ala man khalafa amri. Subhanallah al-Azim. Cheikh Al-Albani a dit authentique. Cheikh Al-Albani a dit authentique. Tayyib. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, cité le verset, il a dit wa lillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. C'est à Allah qu'appartient la puissance, ainsi qu'à son messager et aux croyants. Naam. Sourate Ali Imran 139. C'est à Allah qu'est la puissance, ainsi qu'à son messager et aux croyants. Donc, pourquoi il a cité ce verset? Pour te dire que il a cité à la fin des croyants. C'est quoi, non? C'est quoi? Non, j'ai pas compris. Munafiqun. Munafiqun numéro 8. Naam, Munafiqun numéro 8. ولله العزة ولرسول المؤمنين. نعم. ولكن المنافقين لا يعلمون. C'est moi qui suis trompé. Munafiqun numéro 8. نعم. Donc, la puissance appartient à qui? À Allah Azza wa Jal. Ainsi qu'à qui? À son messager. Ainsi qu'à qui? Aux croyants. Ce sont les croyants qui sont forts. Forts de quoi? Forts d'abord de cœur. Forts d'abord de cœur. L'hypocrite est fort de corps. Et très faible de cœur. Une petite épine. Et, classe, il a des ouest-ouest et il tombe malade, il dit je vais mourir, et ceci et cela. Et il va vite à l'hôpital. Et le croyant, très faible de corps, miskin, mais de cœur, masha'Allah, comme une pierre sans cœur. Naam. Plein d'obstacles, plein de ceci et cela, il est là debout. Debout. Masha'Allah. Pourquoi? Parce qu'il est fort. Qui lui a donné la force? C'est Allah Ta'ala. Il lui a donné la force et la puissance. Ensuite, il a cité un deuxième verset où Allah Ta'ala dit « وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Ne fléchissez pas, ne vous affligez pas alors que vous êtes supérieurs si vous êtes de vrais croyants. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Donc, ne vous affligez pas alors que vous êtes les supérieurs si vous êtes des croyants. Toute personne qui est vraiment croyante, elle est supérieure. Comment qu'elle n'est pas supérieure? Alors qu'elle a une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai une relation directe avec qui? Avec le plus puissant. Alors, j'ai une relation directe et Allah ta'ala ici a dit Ntum l'a'laun. L'a'laun. L'a'la. Allah ta'ala c'est l'a'la. Allah ta'ala c'est le plus haut. Donc moi aussi je deviens haut. Haut ici dans le sens de je deviens fort, supérieur. Comment je ne deviens pas? Alors que j'ai une relation directe avec lui. Et l'autre, qu'est-ce qu'il a? Il a une relation directe avec le shaitan. Moi, j'ai une relation directe avec Allah subhanahu wa ta'ala, le plus haut, le plus fort, le plus le plus puissant. Et l'autre, mon ennemi, celui qui n'est pas avec moi sur la voie droite, il a une relation directe avec le shaitan. Le shaitan l'avili, qui est avili, qui est maudit. Naam. Ibn al-Qayyim dit, la foi se compose de paroles et d'actes, apparents et cachés. Allah Ta'ala dit, من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. Il est يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. Quiconque veut la puissance, qu'il la cherche auprès d'Allah Azza wa Jal. Car la puissance tout entière lui appartient. Vers lui monte la bonne parole et élève les œuvres pieuses. Donc, quiconque veut la puissance, qu'est-ce qu'il fait? Qu'il la cherche auprès d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si Allah Ta'ala ne te donne pas la puissance, jamais tu ne l'auras. Jamais tu ne l'auras. Tu ne peux l'avoir que si Allah Ta'ala Azza wa Jal te la donne. Ibn al-Qayyim dit, c'est-à-dire que celui qui veut la puissance, qu'il la cherche dans l'obéissance et la mention d'Allah à travers la bonne parole et les œuvres pieuses. Pourquoi Allah Ta'ala, quand il a parlé ici de la puissance, il nous a montré comment l'avoir? Il a dit, quiconque veut la puissance, qu'il la cherche auprès d'Allah Azza wa Jal. Car c'est lui qui la détient, pas autre. Ensuite, pourquoi il a parlé des bonnes actions et de la bonne parole? Il a dit, vers lui monte la bonne parole et il élève haut la bonne action. Pourquoi il a cité ces deux choses? La bonne parole et la bonne action. Pour te dire que si tu veux la puissance, alors fais ces deux choses. Fais les bonnes actions et dis de bonnes paroles. Dis de bonnes paroles, fais de bonnes actions, et tu verras comment Allah subhanahu wa ta'ala te donnera la force et la puissance. C'est pour ça que Ibn al-Qayyim dit, c'est-à-dire que celui qui veut la puissance, qu'il la cherche dans l'obéissance et la mention d'Allah. À travers la bonne parole et les œuvres pieuses. On dit l'invocation du 8, qu'est-ce qu'on dit? Dans Dua al-Qunut du 8, on dit celui que tu prends comme allié ne sera jamais humilié. Et celui que tu prends comme ennemi ne sera jamais honoré. فَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَدَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَدَيْتَ. Vous connaissez tout ça dans le Qunut du 8, là. فَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَدَيْتَ. C'est pas possible. Celui que tu prends comme allié, jamais ne sera humilié. Et celui que tu prends comme ennemi ne sera jamais honoré. Jamais. Non. Celui qui obéit à Allah Azzawajal, il l'aura pris pour allié, pour ce en quoi il lui aura obéi. Et il obtiendra une puissance en fonction de son obéissance. Quant à celui qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, il l'aura pris pour ennemi, pour ce en quoi il a désobéi. Et il obtiendra donc une humiliation en fonction de sa désobéissance. Naam. Huitième bienfait de baisser le regard. Huitième bienfait. C'est que cela obstrue l'entrée de Satan vers le cœur. Donc tu lui bouches. Tu lui bouches, au shaitan, tu lui bouches l'entrée vers le cœur. Pourquoi? Car shaitan entre par le regard et traverse par lui jusqu'au cœur plus vite que le vent ne traverse un lieu désert. Il lui donne à voir une belle apparence de ce qui est observé. Il l'embellit. Enfin, le haram, il l'embellit. Non. Il en fait une statue à laquelle le cœur s'adonne, puis lui fait des promesses, le fait espérer, et allume dans le cœur le feu du désir, en y jetant le bois des péchés auxquels il ne serait pas parvenu sans cette représentation. Ainsi, le cœur s'embrase. Khlas. Le cœur maintenant s'est embrasé, comme on embrase le feu. Non. On jette du bois, et on jette un peu d'essence sur le bois, et on jette un bâton d'allumette. Maintenant, le bois s'embrase. Il dit ici, le cœur s'embrase. C'est de cet embrasement que viennent ces souffles, en lesquels il ressent la chaleur de l'enfer, ainsi que ses soupirs et chagrins. Ceci, car le cœur est cerné par le feu de toutes parts. Il se tient au milieu, telle la brebis au centre du four. C'est pour cette raison que le châtiment de ceux qui s'adonnent à leur désir pour les belles apparences illicites consiste en ce que on leur installe dans la tombe un four de feu et qu'on y place leur âme jusqu'au jour où le corps sera ressuscité. Ainsi qu'Allah l'a fait voir en son rêve, l'a fait voir en rêve à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est mentionné dans le hadith, unanimement reconnu authentique, dans le Bukhari et dans le Muslim. Naam. J'ajoute une petite. Alors je fais un petit commentaire ici, naam, pour dire ce que je sais moi, parce qu'il a dit ici, il a dit. C'est pour cette raison que le châtiment de ceux qui s'adonnent à leur désir pour les belles apparences illicites consiste à ce qu'on leur installe dans la tombe un four de feu. Ce que je sais moi, c'est que le four de feu, ce n'est pas dans la tombe. Non. Mais qu'il sera Yom al-Qiyam. Et lui, il a dit, c'est un four de feu dans la tombe, je ne connais pas ça. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Lui, il n'a pas donné un délit comme ça que dans la tombe, il y a cela. Naam. Vous connaissez tous le hadith des deux anges qui sont venus au prophète quand il dormait. Ils lui ont montré beaucoup de choses et à chaque fois qu'il voulait comprendre, il lui disait intalik, intalik. Yani continue. Et comme ça. Et à la fin, ils lui ont expliqué. Entre autres, ils lui ont montré des gens, tout nus, qui criaient et un feu, yani, qui brûlait spécialement leurs parties intimes. Comme dans un four, yani, qui était, yani, large, ensuite qui montait, devenu exigu. À la fin, quand il a demandé là, dit, c'est quoi tout ce que j'ai vu, entre autres, les femmes et les hommes qui criaient, et dans le feu, yani, dans le feu brûlait leurs parties intimes, et il a dit, ce sont les zounettes. Ce sont les fornicateurs et les fornicatrices dans ce bas monde. Nam. Mais il n'a pas dit que c'était dans la tombe. Neuvième bienfait par rapport à celui qui baisse le regard. Et que cela vide le cœur pour la réflexion en ce qui est compte pour son intérêt, afin qu'il s'y adonne, alors que le fait de laisser vaquer son regard le lui fait oublier et se pose tel un obstacle. Non. Subhanallah al-Azim, c'est vrai. Les personnes qui... Est-ce que vous connaissez, vous, quelqu'un, par exemple, je donne un exemple, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui regarde des films pornographique ou l'ayadu billah, et qui a par exemple de la science, et qui peut yani, faire des halaqat et donner des cours et écrire des racets et des je ne sais quoi. C'est possible ça? C'est pas possible. Le fait déjà que tu regardes une seule action sans le vouloir, sans le vouloir. Des fois, tu es sur internet, quand on voit une photo comme ça, sans le vouloir, tu vois quelque chose de pas bien. Dans la seconde où tu vois, tu sens dans ton cœur comme un poignard qui vient de rentrer et de te frapper dans le cœur. Donc tu vas rester peut-être au moins 10 minutes, un quart d'heure, peut-être toute la journée, peut-être toute la semaine, malade. Tu vas avoir fait une chose que tu n'as pas voulu voir. Qu'en est-il celui qui lui-même, il va comme ça et il défie Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « moi je vois ». Et il ouvre comme ça, il commence à voir. Celui-là, Allah ta'ala va lui donner la lumière pour que il fasse da'wa ou là, il fasse un cours ou là. Une fois, une sœur m'a contacté. Si je me trompe pas, ça fait longtemps quand j'étais au Koweït. Si j'ai une bonne mémoire, je crois que c'est une Marocaine. Si j'ai une bonne mémoire. Wallahu ta'ala adam. Elle m'a dit, Wallah al-Azim, qu'une fois, sans le vouloir, je ne sais pas ce que, sur où j'ai cliqué, j'ai vu quelque chose de pas bien. Wallah al-Azim, c'est elle qui a juré. Wallah al-Azim, moi je la connais pas et je la crois. Quelqu'un qui jure comme ça, je le crois directement. Comme dans le hadith de Isa alayhi salam, quand il a vu quelqu'un voler, il lui a dit, tu voles? Il lui a dit, Wallah al-Azim, j'ai pas volé. Il a dit, je crois. Je crois en Allah subhanahu wa ta'ala et je démens mes yeux. Ce sont mes yeux qui ont menti. Donc, tu n'as pas volé. Elle a dit, Wallah al-Azim, que je n'ai pas dormi 3 nuits. 3 nuits, je n'ai pas dormi. Regardez le cœur quand il est vivant. Le cœur quand il est vivant n'accepte pas des choses pareilles. Quand il voit une chose pareille, il passe la nuit à pleurer, il passe la nuit malade. Il voit seulement. En bas, il y a des gens qui écrivent comme ça, Ya Cheikh. C'est comme si quelque chose de banal. Ya Cheikh, j'ai fait Zina, et maintenant je regrette. Et là, la hawla wa la quwwata illa billah, subhanallah, Allah al-musta'an. Comme ça, facilement, j'ai fait Zina. Peut-être même marié. Mon mari s'est absenté. Le shaitan est difficile. Allah al-musta'an. C'est comme si j'ai mangé une banane, j'ai bu un jus, j'ai fait zina. C'est banal. Allah al-musta'an. Les gens ne savent pas. Ne savent pas ce qui les attend. Les gens ne savent pas. Non. Ne savent pas ce qui les attend. Si quelqu'un savait, le fornicateur, ce qu'il attend demain quand il va mourir, Wallah al-Azim, pour tout l'or du monde, il le ferait pas. Pour tout l'or du monde, il fait pas cette chose. Et quand la foi faiblit, qu'est-ce qu'on dit? Qu'Allah Ta'ala nous préserve. Donc le 9e, c'est que cela vide le cœur pour la réflexion. Quand quelqu'un voit le haram, ça vide le cœur de la réflexion. Classe. Tu n'as plus maintenant, tu n'es plus occupé à essayer de comprendre le tafsir de ce verset, le tafsir de ce hadith, cette mas'ala fiqhiya, tout ça, khlas, ça ne te dit plus rien. Pourquoi? Ton cœur maintenant pense à d'autres choses, à la chose qu'il vient de voir, à la scène qu'il vient de voir, elle est dans le cœur, elle est entre les yeux. Khlas, ça t'obstrue le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. La lumière est partie. Maintenant, c'est une obscurité qui a pris sa place. Maintenant, si j'ouvre le Coran, je ne peux pas le lire. Je dis comme ça, si je dis, pourquoi je mens? Je ne suis pas hypocrite. Je ne peux pas lire et je ferme le Coran. Pourquoi? La chose de haram que je viens de voir s'est installée dans mon cœur avec une grande, grande obscurité. Je ne peux pas. Non. Pour lire le Coran, il faut être apte à voir une certaine lumière dans le cœur qui te pousse. Qui te dit, bien, on va lire le Coran. Il y a une douceur dans le cœur qui te pousse. Maintenant, il n'y a pas ça. Je viens de voir le haram. Khlas, Allah Ta'ala m'a puni. Donc il a fait descendre une obscurité dans mon cœur. Il dit ici. Donc, ça vide le cœur pour la réflexion en ce qui comporte son intérêt. Ainsi qu'il s'y adonne. Alors que le fait de laisser vaquer son regard le lui fait oublier et se pose tel un obstacle. Ainsi, il se conforme à ses passions et oublie dhikr Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَتَبَعَوَا وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا. Vous connaissez tous Sourate Al-Kahf, verset 28. Écoutez bien ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre appel et qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre appel. Celui qui suit ses passions et dont le comportement dépasse les limites. Pourquoi ? Justement, si tu t'assois avec ce genre de gens et tu leur obéis à ce qu'ils disent, alors tu veux ta perte. Tu veux ta perte. Ces gens, le Rafiloun, celui que Allah Ta'ala lui a, une personne à qui Allah Ta'ala a rendu le cœur inattentif, on appelle ça le Rafil et le Rafila. Non, distrait. Loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là, est-ce que il va te parler d'Allah ou de son prophète? Il va parler des sahaba? Il va parler des salaf salih? Il va te parler seulement du dancing? Non, et du vin? Et des femmes? Et de l'alcool? Et de la drogue? Et de la cigarette? Et des pique-niques? Et de je ne sais quoi? Du matin au soir? Donc moi, j'avais une petite, un degré, un atome de foi que j'avais en restant avec cette personne, cet atome, peut-être qu'il part. Non, le peu que j'avais, il risque de partir. Si maintenant moi je lui parle d'Allah Ta'ala avec ça, il n'accepte pas. Si au moins il me laissait parler, au moins, à la rigueur, je me suis assis avec cette personne, mais j'ai un but, lui faire da'wah. Ma'alish, quand je lui parle, ça lui plaît, il accepte. C'est bien de rester avec une personne pareille. Tu as un ajr, masha'Allah. Masha'Allah. Si Allah Ta'ala fait de la sorte que tu sois la guidée de cette personne qui est loin, loin d'Allah, comme le ciel est loin de la terre. Mais maintenant, si moi, quand je lui parle aussi, il n'accepte pas. Ni lui, il parle de ces choses, ni il accepte que je parle de ces choses. Alors, qu'est-ce qu'il accepte? Il accepte que ça soit lui qui parle de choses mauvaises, ou que ça soit moi qui parle de choses mauvaises, et dans ce cas, il m'encourage. Ah oui, il faut profiter. Une vie, qu'une seule fois. Attention, déjà tu as combien? Tu as 30 ans, 40 ans. Ikhlas, il faut profiter au maximum. Jouis de la vie, naam. Jours et nuits, il ne faut pas dormir. Ceci, cela. Alors moi, c'est ma perte. Donc je cherche ma perte si je vais m'asseoir avec quelqu'un de pareil. Le dixième et dernier bienfait du fait de baisser le regard du haram. Ce qu'il existe entre l'œil et le cœur, il existe entre l'œil et le cœur une ouverture et un chemin qui implique l'imbrication de l'un et l'autre, qui s'amende ou se corrompt en fonction de l'autre. Ainsi, si le cœur se corrompt, le regard se corrompt. Et si le regard se corrompt, du verbe corrompre, alors le cœur se corrompt. Et inversement pour l'amendement. Subhanallah al-Azim. Si le regard se dégrade et se corrompt, le cœur se corrompt et se dégrade. Et il devient semblable à la décharge qui est le lieu où sont entreposées les souillures, impuretés et saletés. Et il ne convient donc plus pour être le lieu de la connaissance, de l'amour et du retour vers Allah Azza wa Jal, du rapprochement vis-à-vis de lui et de la joie, de sa proximité. Mais c'est l'opposé qui s'y passera. Donc, entre l'œil et le cœur, il y a une ouverture et un chemin qui implique l'imbrication de l'un et de l'autre. Naam. Au point aussi, si le cœur se corrompt, le regard se corrompt. Quand on a un cœur qui est corrompu, est-ce qu'il va comment je cherche le verbe, c'est pas insuffler une seconde comment qu'on dit yulhimuka, c'est pas insuffler, c'est, j'ai le mot sur les lèvres, je le trouve pas. L'inspirer, voilà, j'ai trouvé, alhamdoulilah. Est-ce que quand on a un corps corrompu, est-ce que mon cœur va m'inspirer, c'est-à-dire d'aller faire ce que Allah Ta'ala aime, de voir ce que Allah Ta'ala aime, d'écouter ce qu'Allah aime. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Mon cœur est corrompu. Naam. Et vice-versa. Maintenant, si le regard est corrompu, le regard voit les choses que Allah Ta'ala n'aime pas. Est-ce que le cœur va être masha'Allah? Non. Le regard s'est corrompu, le cœur va se corrompu. Le cœur, il y a des ténèbres, une obscurité qui vient s'installer dans le cœur. Donc ça marche ensemble. Maintenant, si le cœur est masha'Allah, il va me pousser à voir des choses masha'Allah. À ouvrir le Coran, à écouter des cours, à assister à des doros. Pourquoi? Car le cœur est masha'Allah. Et maintenant, si le cœur n'est pas bien, qu'est-ce qu'il va pousser? Il va pousser aux choses qui ne sont pas bien. Aller voir les choses pas bien et écouter les choses qui ne sont pas bien. Donc, si le cœur se dégrade ce Coran, si le regard se dégrade ce Coran, le cœur aussi se corrompt et se dégrade. Et le contraire. Et si le cœur se corrompt, aussi le regard se corrompt. Non. Tout ça, c'était, si vous vous rappelez, on avait dit au début, Naam, concernant la manière d'empêcher ce mal de survenir le mal qui survienne, ça réside en deux choses. La première consiste à baisser le regard. Maintenant, la deuxième manière, c'est quoi? C'est d'empêcher l'attachement du cœur. Ça consiste à l'occuper en ce qui va l'éloigner de ceci et s'y opposer. Non. Donc, la deuxième manière d'empêcher l'attachement du cœur, c'est quoi? C'est l'occuper en ce qui va l'éloigner de ceci et de s'y opposer. Il dit ici, il s'agit soit d'une peur angoissante, soit d'un amour obsédant. Si le cœur est vide de la peur vis-à-vis de ce dont la perte est plus néfaste que la survenue de ce qui est aimé, ou de la peur vis-à-vis de ce dont la survenue est plus néfaste que la perte de ce qui est aimé, ou de l'amour pour ce qui est plus utile et meilleur pour celui qui est pour lui, ce qui est aimé, et dont la perte est plus néfaste que la perte de ce qui est aimé, il ne trouvera aucun échappatoire à l'amour des représentations. L'explication de cela est que l'âme ne laisse une chose aimée que pour ce qui est plus aimé encore. Ou la crainte d'une chose mauvaise dont la survenue lui est plus néfaste que la perte de la chose aimée. L'homme a besoin pour cela de deux choses qui, si elles viennent à manquer, ou l'une d'entre elles uniquement, il ne tirera pas profit de son âme. C'est quoi ces deux choses? La première, c'est une clairvoyance correcte par laquelle il distingue les degrés de ce qui est aimé et détesté et donne priorité à la plus élevée des deux choses aimées. Et on endure le moindre des deux maux afin de se libérer du plus grand. C'est la spécificité de la raison et on ne considère pas comme étant doué de raison celui qui agit contrairement à cela et la condition des animaux peut être meilleure que la sienne. Naam. Vous savez que toute personne dans la vie, même les animaux, cherche quoi? À attirer le bien vers soi et refouler le mal. Mais Ibn Qayyim dit, et encore cela ne suffit pas. Pourquoi? Des fois, tu veux attirer un bien et refouler un mal, c'est mashallah. Mais des fois, le bien lui-même, il y a bien et il y a mieux. Il a dit, si maintenant il y a bien et il y a meilleur, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu attires le bien et tu laisses le mieux ou tu laisses le meilleur. Ça veut dire que tu as fait une faute. Naam. C'est comme le mal. C'est bien de refouler le mal. Mais il y a petit mal et il y a grand mal. Maintenant, si tu pousses le petit mal, mais tu vas faire un grand mal. Tu n'as rien fait. Tu as fait un mal. Donc, comme disent les savants, disent, يعني الحاذق والذكي ليس فقط الذي يدفع الشر والذي يجلب الخير إنما الذي يدفع شر شرين ويجلب خير خيرين. Comme ça disent les savants. C'est-à-dire le doué d'intelligence et de savoir et celui Allah Ta'ala auquel il a donné le succès. C'est pas celui qui pousse le mal, mais celui qui sait pousser le plus grand mal. Et c'est pas celui qui attire le bien, mais plutôt celui qui attire le plus grand bien. Naam. Sinon, pousser le bien. Hein, faut pousser le mal et attirer le bien. Même les animaux savent le faire. Même les animaux savent le faire. Jette un animal, ramène, je sais pas qui, un mouton. Naam. Et jette-lui. Ou alors monte-lui dans une main. Yani de l'herbe. Et dans l'autre main, un flambeau qui brûle. Naam. Et tends-lui le flambeau. Naam. Il va pas s'approcher. Ou alors il s'approche un peu. Quand il sait que c'est un flambeau, ça contient du feu, il se retire. Tends-lui la main où il y a de l'herbe, il va commencer à brouter. Et là où tu marches, il va te suivre. Même l'animal connaît. C'est quoi le mal, c'est quoi le bien. Mais est-ce que l'animal peut connaître et faire la différence entre petit bien et grand bien, petit mal et grand mal? Il peut pas. Mais le doué de raison, le muwaffaq, le croyant, le doué de raison, celui auquel Allah Ta'ala a donné le succès, c'est celui qui peut atteindre ce degré, bi'ilna azza wa jal. Et la deuxième chose, donc la première des choses, pour pousser tout cela et avoir le succès, c'est avoir une clairvoyance. Une clairvoyance qui te permet, ce qu'on a dit maintenant, de pousser le plus grand mal et d'attirer le plus grand bien. La deuxième chose, c'est d'avoir une forte détermination et une patience par laquelle il peut accomplir cet acte ou le délaisser. Car il dit, souvent, la personne connaît la valeur de la différence entre le mal et le bien, mais la faiblesse de son âme, de sa volonté et de sa détermination l'empêche de choisir ce qui est plus utile. Ceci en raison de son avidité, sa convoitise, la bassesse de son âme et la faiblesse de sa volonté. Non. Donc, avoir la clairvoyance, c'est bien, mais des fois ça suffit pas. Pourquoi? Ton âme est si basse, si vile, si méchante, si mauvaise, qu'elle ne te laisse pas choisir. Elle sait que voilà, ça c'est, cette chose c'est un bien, mais ne fait rien pour l'attirer. Elle sait que cette chose c'est un mal, mais fait tout pour le faire. Subhanallah. Voir des choses de haram, c'est un mal. Au moment où tu vois, naam, tu es dans un grand péché. Allah Ta'ala est en colère contre toi. Tu risques que la malédiction descende sur toi au moment où tu es en train de voir. Tu risques. Pourquoi tu risques pas de mourir? C'est pas à cause que tu vois. Mais peut-être que c'est ton dernier instant. Peut-être que maintenant tu vas mourir. Et imagine, ça va coïncider, mourir en train de voir c'est pas comment ça s'appelle, un film pornographique. Je suis en train de voir, ensuite mon cœur s'arrête. Beaucoup de gens sont morts. C'est pas à cause du film. Mais c'est le destin. Cela, c'est ton moment est venu. Et ça coïncide avec une mauvaise fin. Là, beaucoup de gens sont morts dans des tremblements de terre. Ils les ont trouvés dans des hôtels. Ils sont en train de faire la zina, comme ça, tout nus, l'un sur l'autre. Comme ça. Ils les ont séparés et les ont enterrés. Comment qu'ils vont rencontrer Allah Ta'ala? Je ne parle pas des kofars, je parle des croyants, des musulmans qui sont morts comme ça, en train de faire la zina. Allah Ta'ala nous préserve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand Allah Ta'ala veut du bien à quelqu'un, il a dit, il l'emmiel, il lui met du miel. Les sahabas n'ont pas compris, ils ont dit, c'est quoi l'emmiel et à Rasulallah, c'est quoi lui mettre du miel? Il a dit, quand Allah Ta'ala veut du bien à quelqu'un ou bien l'aime, naam, attendez, je cherche le, il l'inspire, naam, il l'inspire, il lui met dans son cœur de faire une bonne action, et quand il fait la bonne action, il prend son âme. Regardez, quand Allah Ta'ala veut du bien à quelqu'un ou bien l'aime, et Allah Ta'ala, pour lui, il n'y a pas de piston. Pourquoi il aime X et il n'aime pas Y? Non. Fais telle, telle et telle chose, Allah Ta'ala va t'aimer. Et fais telle, telle et telle chose comme péché, Allah Ta'ala va te haïr. Il n'y a pas de puissance chez Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc, quand Allah Ta'ala aime quelqu'un, s'il l'aime, pourquoi? Parce qu'il a vu en lui que c'était quelqu'un qui voulait faire des efforts, c'est quelqu'un qui est sincère, c'est quelqu'un qui du matin au soir pense à son au-delà, pense à sa tombe, pense à l'akhira. Alors Allah Ta'ala aime cette personne. Quand il l'aime, qu'est-ce qu'il va lui faire? Il va lui faire lui donner une bonne fin. Dès que Allah Ta'ala voit qu'il lui reste un quart d'heure pour mourir là, il lui inspire dans le cœur, va rendre visite à ta tante. Et il meurt, et Afon, il sort, et un accident, je ne sais quoi, il meurt. Donc, il est mort en allant faire la piété familiale. C'est Rahim. Il est mort en allant faire, masha'Allah, quelque chose que Allah Ta'ala aime. Où il lui dit alors, va chez X, tu connais des gens. Naam, tu sais qu'il est pauvre. Va lui donner quelques sous. Naam, pour mon visage. Et il sort pour aller donner quelque chose à ce pauvre miskin. Et yani, il meurt en cours de route. Voilà quand quelqu'un, Allah Ta'ala lui aime, comment qu'il lui donne la faim. Et vice-versa, celui qui fait les grands péchés, qu'est-ce qu'il fait? Il le laisse comme ça mourir comme un chien. Mourir comme un chien. Et vous savez que chaque personne qui meurt va venir, yani, va ressusciter comme elle est morte. Comme dans le hadith sahih. Comme dans le hadith sahih. La personne va ressusciter comme elle va mourir. Celui qui meurt prosterné va ressusciter prosterné. Celui qui meurt en faisant zina va ressusciter en faisant zina. Déjà, comment rencontrer Allah et quoi lui dire? Quoi lui dire? C'est pas la peine. Regarde la façon, ce que tu es en train de faire. Regarde comment tu es venu vers Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah ta'ala nous préserve. Il a dit ici, la première des choses, c'est quoi? C'est la clairvoyance. Que Allah ta'ala nous donne la clairvoyance dans le din. Ça, c'est une chose très importante. La clairvoyance vient de Allah ta'ala et elle est basée sur la science. Allah ta'ala te donne une science pour pouvoir différencier entre le mal et le bien, la sunna, la bid'a, la guidée, la perdition, et comme ça. Et la deuxième des choses, la détermination et la patience. La détermination et la patience. Il dit ici, Allah Azza wa Jal n'a accordé l'imama, le fait de devenir imam et de guider, hein, qu'aux adeptes de la patience et de la certitude. Naam. Ainsi, lorsqu'il a dit, dans le Coran, il a dit, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Sijda 24. Nous avons fait d'eux, ou l'a élu d'eux, désigné d'eux, ou l'a parmi eux, des dirigeants qui guidaient les gens par notre ordre, bien sûr, aussi longtemps qu'ils enduraient et croyaient fermement à nos versets. Donc, pour que Allah subhanahu wa ta'ala fasse de quelqu'un, yani, quelqu'un qui guide, c'est-à-dire il lui donne ce haut statut, ce statut de pouvoir guider les gens, les guider soit dans la prière, soit dans le ilm, soit, mais dans le din, bien sûr. Il faut que la personne remplisse deux conditions. Quoi? Qu'elle soit de ceux qui endurent et ceux qui croient fermement. Avec l'endurance, on pousse quoi? Avec l'endurance, on pousse les patients. Et avec la fermeté dans la croyance, et croyez fermement. Et avec la fermeté dans la croyance, on pousse quoi? On pousse les ambiguïtés. Car toutes les fitnas viennent ou bien des passions, ou bien des ambiguïtés. Pour pousser et refouler les passions, il faut avoir la patience et l'endurance. Aussi longtemps qu'ils ont duré. Et pour refouler les ambiguïtés, il faut avoir quoi? Une fermeté dans la croyance. La science, naam. Je suis sûr de ce que je dis. Je suis sûr de ce que j'avance. J'ai la science, bi'idhnillah ta'ala. Aucune ambiguïté ne peut arriver à mon cœur. Elle sera brûlée avant qu'elle arrive à mon cœur. Pourquoi? La science, bi'idhnillah ta'ala. Donc, regardez Allah ta'ala ce qu'il a dit. Nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guidaient, mashallah, ils ont le statut maintenant de guider les gens par notre ordre. Lorsqu'ils ont enduré et ont cru fermement à mes versets. Naam, Ibn al-Qayyim dit, rahimahullah, c'est celui qui agit ainsi, qui tire profit de sa science et dont les gens tirent profit. Naam, celui qui agit ainsi, il a ces deux choses-là. Celui-là, il tire profit de sa science lui-même. Pourquoi? Parce qu'il marche avec clairvoyance, mashallah. Il parle avec clairvoyance, il agit avec clairvoyance. Et aussi, les gens tirent profit de lui. Les gens profitent de lui. profite de sa science, de sa clairvoyance, de son comportement. Et celui qui agit à l'opposé ne tire aucun profit de sa science. Lui ne tire aucun profit de sa science. Même s'il a un peu de science, aucun profit. Et personne ne tire profit de lui. Si lui, il ne tire pas de lui-même, comment les gens peuvent-ils tirer profit de lui? Il est également, il y a également, c'est-à-dire des gens qui tirent profit de leur science, mais dont les gens ne tirent pas profit. Il y a également des gens qui tirent profit de leur science, mais dont les gens ne tirent pas profit. Naam, il y a aussi des gens qui ont un peu de science au point où ils tirent profit de leur science. Alhamdulillah. Ils savent comment prier, comment jeûner, comment ceci, mais dont les gens ne tirent d'eux aucun profit. C'est-à-dire il se suffit à lui-même. Il ne fait pas da'wah. Il n'a pas l'aptitude et le statut de pouvoir faire da'wah. Naam. Ni peut-être par la science, ni par son comportement. Il a dit, le premier c'est qui? C'est celui qui tire profit de sa science et fait profiter les gens de sa science. Celui-là chemine avec les gens dans sa lumière. Chemine avec les gens dans sa lumière. Masha'Allah. Les gens profitent de lui, de la lumière qu'il a. La lumière qu'il a. Quant au deuxième, le deuxième c'est qui? On a dit, celui qui agit à l'opposé. Ne tire aucun profit de sa science et les gens ne tirent rien de lui. Celui-là a été éteinte. Sa lumière a été éteinte et il chemine dans les ténèbres avec ceux qui le suivent dans les ténèbres. Ul'ayyadu billah. Celui-là, il chemine dans les ténèbres. Et ceux qui le suivent cheminent avec lui dans les ténèbres. Subhanallah al-Azim. Et le troisième, celui qui a de la science mais juste à son niveau, ne fait pas profiter les gens. Celui-là chemine seul dans sa lumière. Chemine seul dans sa lumière. Mais au moins, alhamdoulilah, il est dans la lumière, au moins. Yawm al-Qiyamah, il peut dire à Allah, c'est tout ce que j'ai pu faire. Yani, je me suis sauvé moi-même. J'ai sauvé mon nefs. Mais j'ai sauvé personne. C'est tout ce que je peux faire, et Allah, j'ai pas assez de science. Mais alhamdoulilah, au moins, il est dans la lumière. Alhamdoulilah. Donc voilà pour le cours d'aujourd'hui. Et on a tardi, vous m'avez pas dit, il est bientôt 22h. Naam. Si j'ai dit quelque chose de juste, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, ça vient de lui. Naam. Si j'ai dit quelque chose de faux, ça vient de moi, de mon ignorance et de mon shaitan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Shahadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prochain cours, inshallah ta'ala, l'amour sincère implique at-tawhid. Assalamu alaikum wa rahmatullah. On commence, inshallah ta'ala, la série de questions-réponses. Demande Allah subhanahu wa ta'ala de tawfiq. Bismillah, inshallah ta'ala, pour la première question. Tfadda.
Wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, ya shaykhana. Jazakallahu khayr wa barakallahu fiqh. Nous allons commencer par la première question qui demande, fayakoullah, je voudrais revenir sur une réponse qui a été donnée lors d'une session questions-réponses il y a quelques semaines de cela. Nous avons vu qu'il fallait détester les actes de la personne et non la personne en elle-même. Je voudrais mine fois de les plus d'explications, n'ayant pas tout à fait compris. D'autre part, j'ai trouvé la traduction d'une parole de Cheikh Uthaymeen, rahimahullah, qui dit « Il en est ainsi du croyant désobéissant, aime-le pour ce qu'il a comme foi et déteste-le pour ce qu'il commet comme désobéissance. » Barakallahu fikoum, mes chers, de m'expliquer comment comprendre cette parole. Qu'en est-il vraiment? Qu'en est-il vraiment? Doit-on détester le croyant ou ses mauvaises actions? Y a-t-il une divergence chez Ahl-Sunnah wa Jama'a sur le fait de détester l'acte et non la personne musulmane? Jazakallahu khayran. Afouan, mes chers. Tfadal, mes chers.
Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, détester la personne musulmane, c'est pas possible comme ça à 100%. Pourquoi? Parce qu'on dit Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala et tous les savants disent on doit le détester pour la chose qu'il a faite et l'aimer pour la foi qu'il a. On le déteste, pour la perversité qu'il a, on l'aime pour la foi qu'il a. C'est un peu comme le musulman qui se marie avec une chrétienne. Donc il l'aime pour sa beauté, pour son bon comportement, pour je ne sais quoi, ses cheveux, pour, et il la déteste pour son dîn, pour sa aqida, pour son kufr. Donc il peut joindre entre les deux. Car toi, quand tu détestes le croyant, donc tu vas dire, je vais le détester. D'accord, déteste-le. Mais comment tu vas faire avec la deuxième partie qui dit, il faut l'aimer pour la foi qu'il a? Comment tu vas faire? Le hadith, les savants disent, il faut le détester pour la perversité qu'il a, et en même temps l'aimer pour la foi aussi qu'il a. Comment tu vas faire pour la foi qu'il a? C'est le croyant. C'est un peu donc, c'est comme le médicament. Tu le détestes parce que il est amer, il est ceci, il donne des vomissements, mais tu dois l'aimer parce que tu sens que c'est dans ce médicament que il y a la guérison. C'est pour ça que dans le hadith authentique que le prophète avait envoyé Khalid ibn Walid pour faire une bataille, et quand il a commencé à tuer les gens, ils ont commencé à dire Saba'na, Saba'na. Le hadith se trouve dans Sahih al-Bukhari. C'est-à-dire on est sorti de notre religion. Entre parenthèses, ça veut dire on est rentré dans ta religion. Entre parenthèses, ça veut dire on est devenu musulman. Et lui, pour lui, le mot Saba'na ne l'a pas convaincu. Il faut dire La ilaha illallah ou quelque chose comme ça. Il les a tués. Ensuite, bien sûr, lorsque le prophète a entendu cela, qu'est-ce qu'il a dit? Allahumma inni abra'u ilayka mimma fa'ala Umar. Ya Allah, je me désavoue. Afoun, mimma fa'ala Khalid. Ya Allah, je me désavoue de ce qu'a fait Khalid. Il n'a pas dit je me désavoue de Khalid, mais de ce qu'a fait Khalid, de ce qu'il a fait. Et regardez le verset qui va venir une seconde. Je vous cherche un verset ici. In bari'un mimma ta'malun. Fa in asawka faqul inni bari'un mimma ta'malun. Regardez le verset, ce verset-là. Ah, attendez, c'est pas difficile un peu de trouver le i en arabe. Fa in asawka. Une seconde. Asawka. Faqul. Tayyib. Regardez ce verset sur Allah Ta'ala. Shu'ara 216. Shu'ara 216. Seconde. Dites-moi si ça se voit chez vous. Alhamdulillah. Fa'in asawka faqulini bari'un mimma ta'amalun. Mais si tu désobéisses, dis-leur, moi je désavoue ce que vous faites. Il n'a pas dit je me désavoue de vous. Moi je désavoue ce que vous faites. Naam. Quand la personne fait une perversité, fait un grand péché, on la déteste. Elle, d'accord. Mais on la déteste pourquoi? Parce qu'elle vient de faire, à cause de la perversité qu'elle vient de faire. C'est-à-dire on la déteste au moment où elle fait ça. Mais ça ne veut pas dire que, par exemple, si ce pervers-là qui vient de boire de l'alcool, qui est un croyant, si je trouve un kefir en train de le frapper, ça veut dire je le laisse. Je dis non, je le déteste. Ou alors, il m'appelle, il me dit, mon fils a un problème, on l'emmène à l'hôpital. Je dis non, celui-là c'est un pervers, moi. Ou alors il me dit moi, c'est pas, moi j'ai des problèmes et je vais mourir, emmène-moi à l'hôpital, j'ai pas de voiture. Je dis non, celui-là c'est un pervers, il boit de l'alcool. Là, c'est l'autre côté, ça veut dire le côté foi, c'est un croyant. Non, il a, c'est un croyant, il dit la ilaha illallah, il prie, ceci, cela. Donc il faut apprendre à quoi? À joindre entre les deux. Je le déteste pour sa perversité. Je l'aime pour sa foi. Je l'aime pour sa foi. Au moment où il a fait la perversité, je le déteste. Non. Et quand c'est côté foi, je l'aime à cause de la foi qu'il a. Non. Sinon, ça va donner quoi? Ça va donner que tout croyant qui va faire une faute ou un grand péché, je dois le détester à vie. Donc, classe. Je ne vais plus parler jusqu'à mourir parce qu'il a fait telle ou telle faute. Alors que, yani, il ne faut pas que j'oublie le côté foi qu'il a. Le côté foi qu'il a et les bonnes choses qu'il a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a ramené quelqu'un qui s'appelle Abdullah Himar, comme ça. Certains disent Abdullah ibn Himar. On l'appelait Himar parce que Himar ça veut dire âne, parce qu'il faisait beaucoup faisait beaucoup rire le prophète. Et le hadith se trouve dans Sahih al-Bukhari. À chaque fois qu'il buvait de l'alcool, on le ramenait devant le prophète sallam pour le punir. Et une fois, quand on l'a ramené, il y a quelqu'un qui a dit qu'Allah le maudisse. C'est Khad ibn al-Walid, disent certains. Le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Lat al-anhu. Ne le maudit pas. Innahu yuhibbu Allah wa rasulahu. Il aime Allah et son prophète. Regardez. Ne le maudit pas, il aime Allah et son prophète. C'est-à-dire, si tu maudis, maudis ceux qui boivent l'alcool. Dis qu'Allah maudisse les buveurs d'alcool, qu'Allah maudisse les fornicateurs. Mais ne le maudis pas comme ça en lui. Tu es maudit. Je sais qu'il aime Allah et son prophète, malgré qu'il a bu de l'alcool. Donc, il faut avoir, inshallah ta'ala, cette balance pour pouvoir, yani, pour pouvoir joindre entre les deux. Je le déteste. Au moment où il fait cette chose, bien sûr, je ne peux pas l'aimer. Il a fait cette chose, j'ai mon cœur qui est gros à cause de ce qu'il a fait, etc. Mais surtout s'il fait le repentir, hein, il ne faut pas oublier donc, le côté foi, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Wallah azza wa jal a'lam.
Jazakallahu khayran, ya Cheikh. Barakallahu fik. Nous allons passer à la question numéro 2, question d'une sœur qui demande. Cheikh, qu'Allah vous récompense et vous accorde Firdaus si une personne a déjà vu une image haram sans le vouloir et que cela ne lui a pas fait grand chose au cœur et que par la suite elle a rapidement oublié. Est-ce une bonne chose ou pas? Tafadhal ya Cheikh. Jazakallahu khayran.
Naam, ça peut être un bon signe. Ça peut être un bon signe en ce sens que peut-être, Wallahu ta'ala alam, qu'elle a dans son cœur assez de lumière pour que cette chose, cette passion, n'ait pas pu arriver au cœur. C'est-à-dire cette passion, la lumière que cette personne a dans le cœur, n'a pas laissé cette obscurité s'installer dans le cœur. Elle l'a vite chassée. Parce que, alhamdoulilah, elle a une âme apaisée et un cœur serein qui n'a pas accepté telle chose et vite l'a jetée. Il ne l'a pas laissé rentrer, bi'idhnillahi ta'ala. En ce sens, ça peut être un bon signe, bi'idhnillahi ta'ala, Wallahu azza wa jal a'lam. Tfadhal.
Jazakallahu khayran, ya Cheikh. Nous allons passer à la troisième question, question d'une sœur qui demande. Jazakallahu khayran, pour ce cours plus que bénéfique. Nous avons vu que nous serons ressuscités avec la dernière action que nous avons accomplie. Ma question est la suivante. Si une personne meurt en forniquant et que la seconde personne, celle qui forniquait avec la première, n'est pas morte à ce moment-là, alors comment pourra-t-elle être ressuscitée en commettant ce péché?
Mais cette question est un peu étonnante. Cette question est un peu étonnante. Vous comprenez pourquoi c'est étonnant? Je donne à un admin de me dire c'est quoi l'étonnant en cela. Mahmoud, tfadal si tu peux.
C'est ce que me disait Abou Tourab en bébé, que c'était étonnant. Ça, je trouve moi aussi cette question très étonnante. Puisque la personne Allah Azza wa Jalla est capable de toute chose, et puis la deuxième personne a sa ressuscité par rapport à ce qu'elle aura fait quand elle mourra. Chacun sera ressuscité par rapport à son action. Il n'y a rien d'impossible, je ne vois pas où est la possibilité.
Ça c'est vrai ce que vous avez dit, mais ce n'est pas la vraie réponse. C'est vrai ce que vous avez dit, mais ce n'est pas la vraie réponse. Ensuite, il y a aussi autre chose. Il est possible qu'elle a dit ici que la deuxième personne n'est pas morte. J'aurais préféré qu'elle dise, par exemple, la deuxième personne et fait tauba. Et fait tauba. Si la deuxième personne a fait tauba, Allah Ta'ala ne va pas la faire venir comme ça. Mais va faire venir la personne qui a fait la zina comme ça, en action de faire la zina. Juste à voir, les gens comprennent qu'elle est morte en train de faire zina, que Allah nous protège. Mais qu'est-ce qu'il y a de qui ne va pas dans la question. On appelle ça, c'est pas, il y a un adjectif comme ça qui dit, c'est pas absurde. Oui, d'absurde. Peut-être d'absurde. Qu'est-ce qu'il y a d'absurde dans la question? Je vous donne jusqu'à 2 ou 3 minutes pour me dire. C'est très important. Je voudrais que ça suscite un peu vos réflexions. Il y a une chose, yani, drôle dans la question. Quelqu'un qui peut nous dire, je lui donne, Inch'Allah, jusqu'à 2 minutes, bi'idhnillahi ta'ala. Je répète la question. Nous avons vu que nous serons ressuscités avec la dernière action que nous avons accomplie. Ma question est la suivante. Si une personne meurt en forniquant, et que la seconde personne, celle qui fornique avec la première, n'est pas morte à ce moment-là, alors comment pourra-t-elle être ressuscitée en commettant ce péché? Je suis sûr que la question est bien comprise. La sœur parle de la première personne. celle qui est morte. La première personne, celle qui est morte. Moi, je trouve quelque chose d'absurde. Je ne sais pas si peut-être c'est moi qui me trompe. Hein. Il est possible que ce soit moi qui me trompe. Bon, je vous donne juste un peu de temps aussi de réfléchir. Sinon, je vous dis ce que je pense et vous me dites peut-être c'est moi qui me trompe. Mais allez, j'attends encore un peu. J'attends encore un peu.
Wallahu a'lam, mes chers. Mais bon, vu comment a dit la question, ma question est la suivante. Si une personne meurt en forniquant et que la seconde personne, celle qui forniquait avec la première, n'est pas morte à ce moment-là, alors comment on pourrait-elle être ressuscité en commettant ce péché? Bah, chacun sera ressuscité par rapport au péché qu'elle aura commis. Donc la deuxième, si elle n'est pas morte, elle sera ressuscitée autrement. Wallahu a'lam. C'est ce que je pense. Fadal les chers.
Ça y est, moi maintenant, je commence à avoir des doutes sur cette question. Et je voudrais déjà même être sûr que ce que j'ai compris, yani, c'est comme ça. Ça y est, que veut dire la personne? Que veut dire la personne pas si la personne n'est pas morte à ce moment? N'est pas morte à ce moment. Moi, ce que j'ai compris, c'est que vous savez tous que, yani, pour qu'il y ait la résurrection, il faut que tout le monde soit mort. Pour qu'il y ait la résurrection, il faut que tout le monde soit mort. Donc, obligatoirement, les deux personnes se représentent car elles seront toutes mortes. Toutes les deux seront mortes. Donc, je vois pas où est le problème. Sauf si la personne veut dire que, c'est-à-dire elle n'est pas morte à ce moment, c'est-à-dire qu'elle a vécu après la fornication. Et elle a vécu après la fornication, ça ne change rien. Ça ne change rien parce qu'elle a fait la fornication avec la personne. Elle a fait la fornication avec cette personne et ensuite, si elle a fait la touba, alhamdoulilah, si elle n'a pas fait la touba, elle a fait un grand péché. Mais si elle a fait la touba, Allah Ta'ala va effacer cette chose. Nous, on parlait de deux personnes. Comprenez bien. Nous, on parlait de deux personnes qui faisaient la fornication et qui sont mortes les deux dans la fornication. Nous en parler, j'ai donné l'exemple de les gens qui sont morts à l'hôtel, ici à un hôtel du côté de Schleff, là, qui sont morts dans l'hôtel, on les a trouvés collés l'un à l'autre. Ils sont morts comme ça. C'est de ceux-là que je parle, ils vont venir Yom al-Qiyamah avec cette position. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Naam, tfadal.
Amin, jazakallahu khayran, cher. Donc nous allons passer à la question suivante. Question numéro 4. Donc, question d'un frère qui demande « Ahsanallahu ilaykum ya shaykhana » Lors du cours précédent, vous avez cité le hadith suivant. « Allah éprouve de la jalousie, le croyant éprouve de la jalousie, et la jalousie d'Allah Azza wa Jal réside dans le fait que le serviteur commette ce qui lui a interdit. » Al-Bukhari 4925 et Muslim 2761, page 221. « Pourriez-vous, min fadlikum, me l'expliquer ?» Allah ne devrait-il pas éprouver de la colère dans une telle situation? En quoi consiste la jalousie d'Allah Azza wa Jal? Barakallahu fik. Tfaddal bishir wa jazakallahu khayran.
Vous savez que Sunna al-Jama'a, par rapport au nom et attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils disent ce qu'il y a et s'arrêtent là où les textes se sont arrêtés. Maintenant, si le prophète alayhi sallam ou bien Allah ta'ala dans le Coran avait dit que, par exemple, je suis jaloux, que Allah ta'ala est jaloux, et que le prophète sallam dans un hadith a dit Allah ta'ala est jaloux et c'était tu. Donc maintenant on ne sait pas, on est sûr que la jalousie d'Allah n'est pas la nôtre, n'est pas comme la nôtre, mais on ne sait pas c'est quoi la jalousie, on ne sait pas c'est quoi. Yani, on ne connaît pas, comment dire en arabe, le kun, le fond, la vrai, le haqiqa de la jalousie. Sinon, on sait c'est quoi la jalousie. Mais, c'est quoi exactement par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala? Ça, seul Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Maintenant, le hadith nous a expliqué. Il nous a dit, la jalousie d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est quand quelqu'un, yani un croyant, yani fait, yani quelque chose de haram. Quand le croyant, yani fait quelque chose de haram, alors Allah subhanahu wa ta'ala yaghar, Allah subhanahu wa ta'ala devient jaloux. Le fait qu'il devienne jaloux, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en colère, mais il veut te montrer ici dans ce hadith que Allah ta'ala a aussi l'attribut de la jalousie. S'il n'avait pas cité cette jalousie, on aurait dit Allah Ta'ala devient en colère, ça s'arrête là. Mais Allah Ta'ala veut te dire que, à part l'attribut de la colère qu'il a, Allah Azza wa Jalla a aussi l'attribut de la jalousie. Mais cette jalousie, quand est-ce qu'elle vient? Elle vient quand le croyant fait le haram. C'est-à-dire, ou peut-être le grand péché. À chaque fois que le croyant fait un péché ou un grand péché, alors Allah subhanahu wa ta'ala devient jaloux. Plus que cela, personne ne peut ajouter plus que cela, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Wallah azza wa jal a'lam. Tfadhal.
Jazakallahu khayran ya shaykh. Nous allons passer à la cinquième question. Question d'une sœur qui dit, ahsanallahu ilaykum ya shaykh. Nous avons vu que le cœur sain ne suggère que le bien et que le cœur malade ne suggère que le mal. Or, il s'avère que, alhamdoulillah, mes membres essayent au maximum d'accomplir le bien, c'est-à-dire en faisant des bonnes actions. Pourtant, je sens dans mon cœur beaucoup de mal, ainsi que dans mes pensées, ce qui se contredit beaucoup. Comment cela est-il possible ? Tfadal al-Sheikh wa jazakallahu khayran. C'était la question numéro 5. Tfadal al-Sheikh.
Naam, ce qu'il faut savoir, deux choses. La première, nous, on est en train de parler d'un cœur qui est mashallah et qui n'inspire la personne et le corps de la personne que du bien. Cela, bien sûr, on est en train de parler d'un statut assez haut, que peut-être nous tous, on n'a pas, c'est sûr. Yani, les gens de la taqwa, les gens de la piété, les gens des salaf, les gens des sahaba, qui du matin au soir vivaient pour Allah subhanahu wa ta'ala et yani, ne parlent que pour Allah, ne font que pour Allah, ne pensent qu'à Allah, et comme ça. Quand la personne atteint un statut comme ça, mashallah, il deviendra comme un ange qui marche sur terre. Et la deuxième des choses, c'est que les sahaba eux-mêmes, radiyallahu ta'ala anhum, et il leur arrivait des ouswas. Et ils allaient se plaindre au prophète alayhi sallam, comme dans les hadiths authentiques, et lui disaient, ya Rasulallah, on a certaines pensées, on préfère ne pas les dire, on préfère que le ciel tombe, ou bien les montagnes se détruisent, plutôt qu'on dise ce qu'on pense. Et le prophète sallam n'a pas dit que c'était grave. Il a dit, vous sentez ça? Il a dit, c'est ça, justement, il a dit, c'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est-à-dire, la mahdoul iman. C'est-à-dire que, quand une personne a la foi, mashallah, il commence à la travailler, il commence à bien s'installer dans le cœur, et la lumière, mashallah, bien à descendre, le shaitan qui du matin au soir est à l'aguet et à l'affût, alors il essaye de, au moins, puisqu'il n'arrive pas à le faire tomber dans les péchés, au moins il essaie de lui détruire un peu et de lui yani, d'embrouiller un peu ce qu'il y a dans le cœur et de lui donner des ouswas et de lui donner des choses comme ça. Naam. En nous donnant de mauvaises pensées, ou bien sur Allah, ou bien sur Allah. Mais, alhamdoulilah, c'est quoi? C'est que, en disant A'udoublah Mishtaradiyam, en disant être coursé comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala le fait éloigner, bi'illah ta'ala. Mais au moins, mon cœur m'a aidé à ce que je n'ai pas suivi le shaitan et des pensées, les mauvaises pensées qu'il m'a données dans le cœur. J'ai pu les éloigner et je ne lui ai pas obéi, je n'ai pas été au bar, je n'ai pas été faire la zina, je n'ai pas été volé, je n'ai pas été escroqué et comme ça, alhamdoulillah. Donc la lumière qu'il y a quand même m'a aidé en sorte que, alhamdoulillah, c'est yani, ce qu'a fait le shaitan, ou là c'est juste au niveau des pensées, et j'ai chassé ces pensées autant que je peux, et la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Naam, tfadhal.
Jazakallah khayran ya shaykh. Nous allons passer à la question numéro 6. Question d'une sœur qui demande: est-il vrai que le premier regard n'est pas interdit tant qu'il n'est pas volontaire? Et si cela est vrai, est-il préférable de l'éviter au maximum? Pouvez-vous nous expliquer quel est le regard autorisé? Par exemple, avoir tendance à regarder furtivement les visages des personnes que l'on croise dans la rue uniquement dans le but de déceler quelqu'un d'hostile. Est-ce mauvais? Dans le sens de savoir dans quel environnement on est. Et s'il peut y avoir un danger près de nous. Barakallahu fikoum. Donc, cher, je suis désolé, il y a beaucoup de questions dans cette question. Tfadal ya cher.
Oui, c'est plein de questions, ça. Des sous-questions. Le premier regard n'est pas interdit. À condition que le premier regard aussi ne soit pas avec quoi? Avec shahwa. Avec désir. Avec envie, avec passion. Ça. Je donne un exemple. je suis avec quelqu'un, je suis avec quelqu'un, on est debout, l'un en face de l'autre, on est en train de parler. Ensuite, lui, il voit qu'est-ce qu'il y a derrière mon dos. Moi, je vois pas. Lui, il voit, il a vu une femme, par exemple, vraiment habillée court, quelque chose comme ça. Il dit, regarde, regarde, et il te dit, il t'avertit, il te dit, regarde comment qu'elle est habillée en cours, regarde comme elle est belle ou quelque chose comme ça. Donc moi, j'ai pas encore vu. Et malgré que j'ai pas encore vu, j'ai pas le droit ici de faire le premier regard. Malgré que le premier regard, c'est pas haram. C'est pas haram, pourquoi? Parce que quand tu marches dans la rue, il faut que tu vois. C'est ça ce qui n'est pas haram, premier regard. Mais si je sais d'avance ce que je vais voir, même si c'est premier regard, j'ai pas le droit de voir. Donc, quand il a dit ça, normalement, je me retourne pas. Il m'a averti que je vais voir, yani, les jambes d'une femme et comme ça. Non, je vois pas. Donc, le premier regard qui n'est pas haram, c'est quand tu marches dans la rue, il faut que tu regardes. Tu regardes qui est en face de moi, qui, est-ce que c'est mon oncle, est-ce que c'est mon cousin, est-ce que c'est peut-être mon épouse qui est dehors, peut-être c'est ma voisine, peut-être. Ça, c'est normal. Mais, quand j'ai vu la première fois, si maintenant, après avoir vu, naam, par exemple, une chose, et que cette chose est haram, naam, maintenant je ne dois pas regarder la deuxième fois. Je ne dois pas regarder la deuxième fois. Pourquoi? Parce que ça va donner des envies dans mon cœur. Naam. Et vous savez que ça commence par une petite envie dans le cœur. Ensuite, ça commence à s'étaler. Ensuite, je vais peut-être sourire, ensuite, je vais parler. Et si on parle, c'est trop tard. Ça va terminer peut-être très mal. Qu'Allah Ta'ala nous préserve. Alors que si je n'avais pas vu, je n'avais pas souri, je n'avais pas parlé que, combien de choses j'aurais évité, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc, par rapport à la personne qui a dit que ce que je vois, etc., naam, quand tu vois, parce que tu dois voir, ce n'est pas interdit. Mais quand, yani, c'est quelque chose que je ne dois pas voir et je commence, yani, à fixer le regard, non, ça devient haram, ça devient haram. Si maintenant, par exemple, il y a une femme là-bas, en face de la rue, à 50 mètres. Et pour moi, je suis en train de vérifier si c'est ma fille ou ce n'est pas elle. Et je suis en train de la fixer pour être sûr que c'est ma fille ou ce n'est pas elle. Dans ce cas, ce n'est pas grave parce que je dois voir que si c'est ma fille, il faut que je lui parle ou bien que je l'emmène avec moi ou bien je ne sais quoi. Non. Donc, je suis en train de voir, c'est pas pour voir, mais dans un but pour être sûr que celle-là c'est ma fille ou ce n'est pas ma fille. Ça, c'est pas interdit. Non. Mais si, comme j'ai dit, je suis un homme et je vois une femme, je sais que c'est ni ma fille ni rien et je commence à la fixer comme ça, à la fixer, à voir. Comment qu'elle marche, comment qu'elle est de dos, comment ceci, comment cela, tout ça c'est haram. Tout ça c'est haram. La même chose pour la femme par rapport à l'homme. La femme par rapport à l'homme aussi c'est la même chose. Si elle commence à voir comment, s'il est musclé, s'il n'est pas musclé, s'il est grand, s'il est petit, s'il est beau, s'il est ceci, tout ça c'est haram. Tout ça c'est haram. Tfadl.
Nous allons passer à la question numéro 7. Question numéro 7 qui demande, Hafidhakumullah, ainsi que mes frères et sœurs. Lorsqu'on l'on dit de baisser le regard, qu'en est-il lorsqu'une femme regarde un match de football? Ou lorsque la famille entière regarde une émission de cuisine dans laquelle se trouvent un homme et une femme mutadarijat? Il est impossible de regarder ce genre d'émission en baissant le regard. Alors est-ce haram? Jazakallahu khayran yashir, tafaddal.
Chauve, ça c'est une question difficile. C'est une question difficile. Je vais te dire pourquoi. Le prophète, alayhi sallam, a dit, le halal bayyin ou le haram bayyin, wa baynahuma mutashabihat et mushtabahat aussi. Le prophète, alayhi sallam, lui-même a dit que le haram était clair et le halal était clair. Et contre les deux, il y avait des choses qui, ça tire un peu vers le haram et de l'autre côté, ça tire vers le halal et que beaucoup de gens ne savent pas. Ne savent pas si c'est maintenant halal ou si c'est haram. Et comme ça. Non. Normalement, un homme, non, il ne doit pas regarder une femme mutabarrija, que ce soit à la télé, que ce soit dans la rue, que ce soit n'importe où. Et la femme, bien sûr, n'a pas le droit aussi de fixer comme ça un homme. Mais, il y a un hadith que j'ai cité une fois dans Sahih al-Bukhari, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de sa maison, comme vous savez, de sa maison, il avait comme une fenêtre qui donnait à la mosquée. Pendant le jour de l'Aïd, des Abyssiniens, des gens d'Éthiopie, d'Éthiopie de nos jours, des Éthiopiens, sont venus à la mosquée et ont commencé à s'entraîner avec des lances et des choses pareilles. Peut-être des sabres, je ne suis pas sûr, mais des lances, c'est sûr. Ah, yani, se jeter des lances et comme ça. Et il y avait Aïcha radiallahu ta'ala anha qui a mis son visage sur l'épaule du prophète Islam qui était en train de voir et elle a commencé à voir avec lui. Elle est restée assez longtemps au point, bien sûr, les hommes ne la voyaient pas, elle était loin, et elle, elle voyait. Au point où le prophète Islam lui a dit, ça ne te suffit pas, ça ne t'a pas suffi Annie, tout le temps que tu as vu. Elle a dit non. Et elle a recommencé à voir. Et un peu plus tard, bien sûr, quand elle a rapporté le hadith, elle a dit, quand j'ai dit que ça ne m'a pas suffi, c'était pas vrai. C'était juste yani, pour, comment dire, pour tester l'amour du prophète Aslam envers moi. Si vraiment il m'aime, il me laisse, ou sinon yani, il me dit, allez, ça suffit. Hein. Allez, et je ne sais pas ce qu'il lui fait. Non. Donc, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Les savants ont dit, elle a bien vu, peut-être une demi-heure, peut-être un quart d'heure, je ne sais pas combien, et c'était des hommes. Mais, elle ne voyait pas, premièrement, avec passion, et deuxièmement, ne voyait pas, yani, le fixer la personne dans les yeux et être comme ça proche de lui. Mais comme ça, je vois quelqu'un de loin en train de courir, en train de jouer, en train de faire des cabrioles comme ça. Tout ça, bi'idhnillahi ta'ala, c'est pas grave. S'il y a le muqtadi, s'il y a la raison valable, comme ici c'est l'Aïd, et c'est quelque chose, les gens pendant l'Aïd voudraient bien un peu se divertir, mais yani, changer un peu d'ambiance, c'est comme ça. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Et je dis toujours, le meilleur d'entre nous, c'est celui qui n'a pas la télé à la maison. Le meilleur d'entre nous, c'est celui qui n'a pas la télé à la maison. Moi, j'ai la télé à la maison. Jusqu'à présent, ça fait un ou deux jours que je parlais avec mon épouse. Je lui dis, et quand la personne va mourir, non, quelle est la preuve que yani, ceux qui vont l'utiliser après moi vont l'utiliser dans le halal? Où est la preuve? Tu ne sais pas où va aller cette télé, mais c'est la tienne. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'on va voir après toi. Surtout que tu es absent. Et absent pour de bon. Donc, le meilleur d'entre nous, c'est celui qui n'a pas la télé. Déjà, quand il rentre à la maison, il n'y a pas cette chose qui l'appelle pour aller voir ce qui s'est passé aujourd'hui, ou là pour aller entendre le discours de je ne sais qui, ou là pour aller voir le match qu'il y a, ou pour aller voir ce qui se passe en Syrie, ou je ne sais quoi. Le meilleur d'entre nous, celui qui n'a pas la télé. Il rentre à la maison, il n'y a ni chayatin, ni rien. Rien qui l'attire, il n'y a que les anges dans la maison avec lui, bi'idhnillahi ta'ala, le calme, na'am, masha'Allah. Et c'est surtout, la femme qui dit, je veux la télé. Dans la plupart des cas, c'est la femme. L'homme est dans le travail, au travail, il vient le soir, peut-être fatigué, peut-être qu'il va dormir, il s'en fout. Mais c'est la femme qui passe la journée, des fois toute seule, et qui, plusieurs fois, force l'homme à ramener la télé. Hein? Moi je ne peux pas rester toute seule et toute la journée et je m'ennuie et ceci cela, il ramène. Et s'il ramène à cause d'elle, bien sûr les deux vont avoir la responsabilité, mais elle beaucoup plus. Pourquoi? Elle a été la cause. Même si lui bien sûr ne devait pas lui obéir dans une chose pareille. Mais on me dit alhamdoulilah chir, j'ai pas de TV mais le net peut-être c'est pire. Comme une sœur autrefois se plaignait beaucoup de son mari qui passe disons 23 heures sur 24 à la télé. Toutes les plaintes qu'elle avait quand elle m'écrivait, c'était à cause de son mari et la télé. Alors un jour je lui ai dit, la télé, c'est la co-épouse pour toi. Non, elle est plus grave que la co-épouse. Puisqu'elle t'a pris ton mari. La co-épouse, au moins, elle prend le mari une fois tous les 2 jours. Une nuit, toutes les 2 nuits. Celle-là, elle a dit, il y a 23 heures sur 24. Il est à la télé. Non. Tfadal.
Donc nous allons passer à la question numéro 8. Question d'une sœur qui dit Barakallahu. Je connais beaucoup de sœurs qui ne se laissent influencer, qui se laissent influencer. Je connais beaucoup de sœurs qui se laissent influencer par les passions et ensuite regrettent, mais retombent dans les péchés. Cher, j'arrive parfois au point de ne plus pouvoir les pousser à arrêter leurs péchés. Quelle est la meilleure façon de les exhorter ou bien sans que au bien, Afouane. Je recommence, cher, je suis désolé. Quelle est la meilleure façon de les exhorter au bien sans que leurs difficultés nous touchent au point d'être vraiment attristés?
Je connais beaucoup de sœurs qui se laissent influencer par les passions et ensuite regrettent, mais retombent dans les péchés. J'arrive parfois au point de ne plus pouvoir, j'arrive parfois au point de ne plus pouvoir les pousser à arrêter leurs péchés. Quelle est la meilleure façon de les exhorter au bien sans que leurs difficultés nous touchent au point d'être vraiment assistés? Je n'ai pas compris la dernière phrase. Quelle est la meilleure façon de les exhorter au bien sans que leurs difficultés ne nous touchent au point d'être vraiment attristés? Leurs difficultés nous touchent. Elle dit, j'ai pas compris ce que ça veut dire. Sans que leurs difficultés nous touchent. Quelle est la meilleure façon de les exhorter au bien sans que leurs difficultés nous touchent? Je dis, leurs épreuves, peut-être ça, leurs épreuves, sans que leurs épreuves nous touchent. Ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on n'est pas responsable des gens. Nous, on est juste, il y a des gens qui veulent faire la da'wa aux gens. Si je sais que telle personne, en lui faisant la da'wa, j'ai, il y a des beaucoup de chances qu'elle m'entende, que cette personne, yani, accepte de moi, et yani, elle accepte, alhamdoulilah, et elle regrette, naam. Et je lui fais la da'wa, alhamdoulilah, moi je fais ça, fissabilillah. Donc, je continue, je dois patienter. Je dois patienter. Naam. Mais si par contre, je sais que, en faisant la da'wa à cette personne, ça me touche. Naam. Et son épreuve, yani, influe en moi. Et je commence à ressentir aussi des passions comme elle. Parce que la personne, pour l'exhorter au bien, etc., elle est obligée de te raconter ce qu'elle a fait. Maintenant, quand elle commence à raconter ce qu'elle a fait, peut-être avec les détails, on a fait ceci, on a fait cela, alors là, c'est très mauvais. Parce que ça risque d'influer sur moi qui suis faible. Moi, je suis faible. Et en entendant ces choses-là, ça peut me faire entrer des choses dans la tête. Et ensuite, le péché ne devient pas très grave pour moi. À force d'entendre ces choses. À force d'entendre ces choses, le péché devient, et n'est pas grave. Moi, ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps. Peut-être 2 mois ou là, 1 mois et demi. Quelqu'un, il était peut-être 22 heures, j'étais avec des frères ici, il m'a dit, voilà, il y a quelqu'un qui a une chose très importante à te raconter, Annie, il veut te poser une question, il est venu avec moi dans la voiture, je ne le connais pas, cette personne, je ne la connais pas, c'est quelqu'un qui m'a ramené en stop, il m'a ramené en stop et on a fait connaissance et on a parlé, ensuite il m'a dit qu'il avait un problème et je lui ai dit, je connais quelqu'un. Si tu veux, on va chez lui. Il m'a ramené chez moi. Et ensuite, quand je me suis assis avec cette personne, il m'a raconté son problème pendant une demi-heure ou là, 1 heure ou là. Je suis resté 2 ou 3 jours malade. Non. Il m'a raconté ce qu'il travaillait, et ce qu'il faisait, et des choses. A'oudou billah, a'oudou billah. 2 ou 3 jours, non, ces choses ne sont pas parties de mon cœur. J'ai même dit à la personne qui me l'a ramené, qui est un frère. L'autre, c'est pas un frère, je ne connais pas. Je lui ai dit, yani, barakallahu fik, yani, une chose pareille, ou une personne pareille, il vaut mieux ne pas me ramener la prochaine fois. Il m'a dit, oh là, moi-même, j'ai regretté, etc., etc. Donc il vient, il te raconte des choses, il travaille dans le haram, et son haram consiste à ceci, cela, et des détails. Bon, lui, peut-être, il cherche la vérité, il cherche la solution. Comment faire pour sortir cette solution, hein? Mais vraiment difficile. Des choses, yani, tu te dis, voilà des choses qui se passent dans le monde, il y a des choses pareilles. Nous, on est des ghafiloun. Comme a dit Allah Ta'ala, Inna alladhina yarmouna al-muhsanat, al-mu'minat al-ghafilat. Il a dit le ghafilat. C'est être loin de ces choses et être dans la distraction, c'est quelque chose des fois de bien. Être loin du mal. Non. De point où tu ne sais, au point où des fois tu sais même pas qu'il y a telle et telle chose qui se passe, par exemple, comme il m'a raconté cette personne. Des choses, il travaille dans un hôtel où il se passe des choses, apparemment c'est un hôtel, mais qu'est-ce qu'il y a? Il commence à des détails, ceci, cela, aoudou billah, peut-être 2 ou 3 jours malade. Je dis à cette personne, si ses sœurs, tu leur fais da'wah, si elles écoutent, etc., et tu ne sens pas toi, yani ça n'influe pas dans ton cœur. Alhamdoulilah, yani cœur rafermigda, fais la da'wah et continue, mashallah, tu as des hajj, si tu fais ça, c'est billah. Mais si par contre, yani ça t'affaiblit, et ça te donne envie un peu je ne sais pas, de souhaiter un peu ce péché, ou je ne sais pas, il vaut mieux s'en éloigner. Non, s'en éloigner, tu n'es pas responsable d'elle, bi'iznillahi ta'ala. Non, تفضل.
Nous allons passer à la question numéro 9, question d'un frère qui dit, lors d'un ancien cours, à l'occasion de la session question-réponse, vous avez déconseillé d'intégrer les écoles dans les pays non musulmans. Cher, avez-vous un conseil à prodiguer aux jeunes qui sont forcés par leurs parents à aller à l'école dans un pays non musulman?
Celui qui est forcé, non, et qui sait que s'il n'y va pas, il va lui arriver des problèmes. Donc qu'il aille et qu'il craigne Allah subhanahu wa ta'ala au maximum. Parce que s'il n'y va pas, il est encore pubère, il n'est même pas peut-être, il n'est même pas peut-être majeur. Il n'est peut-être même pas majeur. Et donc, si on va lui faire des problèmes et l'expulser de la maison, surtout si c'est une fille, qu'est-ce qui va se passer? Il va se trouver dans la rue, donc, ce qu'on disait tout à l'heure, yani, on va refouler un petit mal pour faire tomber la personne dans un grand mal. Cette personne, on dit, comment dit Cheikh Fawzi al-Hafidh Allah Ta'ala? Il a dit, quelle patiente! En parlant de la fille qui, ses parents ne la laissaient pas mettre le djilbab, ni le voile, ni rien. Il a dit, quelle patiente! Quelle patiente! Allah Ta'ala lui fera une solution jusqu'à ce qu'elle se marie, ou bien devienne majeure, ou bien quitte la maison, quand elle pourra quitter. Non. Donc, quand quelqu'un se trouve forcé comme ça par les parents, etc., qu'il patiente avec eux, qu'il craigne Allah subhanahu wa ta'ala au maximum. Tant qu'il peut craindre Allah ta'ala, il craint. Quand c'est plus fort que lui, Allah ta'ala, yani, voit ce qu'il y a dans les cœurs, bi'idhnillahi ta'ala. Non. Tfadl.
Donc, cher, j'ai une dixième question. Une dixième question. Assalamu alaikum, jazakallahu khayran pour le cours et le temps que vous nous accordez. Lors du cours de samedi dernier, nous avons vu qu'il est possible de mettre deux mêmes adorations compatibles. Est-ce que je peux faire deux rak'a avant de dormir en mettant l'intention du rawatib d'après l'Isha et du Shafa? Et aussi en mettant l'intention que ce soit un qiyam al-lil pour dormir et faire al-witr avant l'entrée du Fajr.
J'attends que tu mettes la question sur. Que tu affiches la question, car j'ai entendu un mot qui m'a paru, mais qui n'était pas à sa place. Est-ce que tu vas afficher la fin? Voilà. Jazakallah pour le cours et le temps que vous accordez. Lors du cours samedi dernier, nous avons vu, alhamdoulilah, c'est pas vous avez dit, qu'il est possible de mélanger deux adorations compatibles. Donc, est-ce que tu peux faire 2 rak'at avant de dormir avec l'intention du rawatib, du R d'après Isha, du rawatib de l'après Isha et du shafh, et aussi en même temps l'intention que ce soit qiyam layl, puis dormir et faire l'huître avant l'entrée du fajr. Il y a une chose ici qui sonne mal, c'est quoi? Quand la personne a dit, est-ce que je peux faire deux rakats avant de dormir? Avec l'intention de rawatib après Isha et du chef. Et du chef. Et nous, qu'est-ce qu'on a toujours dit? On a dit, Ya ayyuhan nas, Ya ayyuhan nas, il n'y a pas ce qu'on appelle chef. Il n'y a pas une salade qui s'appelle chef. Tu vas lire tous les livres qu'il y a dans le fiqh et la science religieuse, cherche si tu trouves salat al-shaf. Tu trouves par contre salat al-witr, salat al-duha, salat al-dhuhr, subha, asr, maghrib, isha, bien sûr. Salat al-istikhara, salat al-istisqa, naam. Salat al-musafir, salat al-khawf. Mais il n'y a pas quelque chose qui s'appelle salat al-shaf. Parce que shaf veut dire père. Si tu pries, yani salat al-dhuhr, tu as prié père, car c'est quatre, ça s'appelle, donc tu as fait chef. Si tu pries deux, c'est chef. Huit, c'est chef. Si tu pries un, trois, sept, quinze, 211, c'est un père, ça s'appelle huit. Donc, il n'y a pas une salat qui s'appelle comme ça spécialement salat chef. C'est pour cela que, après salat isha, il y a une salat qui s'appelle Rawati Ratibatul Isha, Ratibatul Isha, c'est-à-dire les deux prières, les deux unités qu'on fait après Salat al-Isha. Ça, c'est une sunna recommandée. Naam. Car ça rentre dans un hadith dans lequel le prophète a dit, celui qui prie 12 rak'at, et dans une version il a dit, il les fait tout le temps. Tout le temps, tous les jours, comme ça il a dit, tous les jours. 12 rak'at, Allah Ta'ala lui construit un palais dans le paradis. Et les 12 rak'at, c'est quoi? C'est les deux de Salat al-Fajr qu'on fait le matin avant Salat al-Subh, et dans lesquels on va lire avec la première, Qul ya ayyuha al-kafirun, et la deuxième, Qul huwa Allah, Allahu Ahad. Ça fait deux. Quatre après Salat al-Dhuhr, quatre. Deux, et on dit salam alaikum, deux et on dit salam alaikum, quatre. Et had les quatre, on ne les fait pas avant que le dhuhr ne rentre. Mais il faudrait les faire après que le dhuhr leur rentre, le moment du dhuhr. C'est-à-dire après avoir entendu le adhan du dhuhr, s'il y a le adhan. Donc ça fait combien? Ça fait six. Et deux après salat al-maghrib, ça fait huit. Et deux après salat... j'ai oublié deux, afwan. Je répète, deux fajr avant salat al-subh, quatre avant salat al-dhuhr, ça fait six. Deux après salat al-dhuhr, ça fait huit. Deux après salat al-maghrib, ça fait dix. Et deux après salat al-isha. Donc il n'y a pas chef. Il y a ces deux rak'at là qu'on appelle ratibatul isha. Donc il y avait quelque chose ici qui clochait lorsqu'elle a dit, est-ce que je peux joindre l'intention entre deux, de faire l'intention de ratiba d'après Isha et du chef? Il n'y a pas. Tu fais seulement l'intention que c'est ratiba de salat al-Isha. Non. Elle dit aussi l'intention que ça soit qiyam al-layl. Qiyam al-layl, il commence après avoir fait ratiba. Quand tu fais ratiba, salat al-Isha, non. Après tout ce que tu fais, c'est qiyam li. C'est pour ça, je donne un conseil à cette personne, si elle veut faire quelque chose de bien, c'est quoi? Qui va grouper entre deux choses bien. C'est quoi? Quand la personne prie salat al-isha, directement quand elle termine, elle fait les l'adhkar, elle se lève et elle fait la ratiba, les deux rak'at. Pourquoi? Parce que ratiba, elle est collée à salat al-isha. Comme il y a, par exemple, le dhuhr, il y a quatre qui sont collés avant, il y a deux qui sont collés après. Et le maghrib a deux qui sont collés après. Et l'isha a deux qui sont collés après. Donc, dès qu'elle termine, elle se lève, elle fait ratiba. Maintenant, si la personne a prié à la mosquée, c'est un homme, il prie l'isha, quand il termine, il fait l'adhkar, ensuite, il fait ratiba à la maison, il ne fait pas à la mosquée. Quand il va à la maison, il fait directement ratiba. Et ensuite, je reviens à cette personne. Maintenant qu'elle a prié à la maison l'Isha, elle a fait l'adhkar, elle a fait ratiba, ensuite elle laisse quoi? Elle laisse le huître jusqu'au matin. Naam, elle laisse le huître jusqu'au matin pour le faire avant le fajr. Et maintenant, si avant de dormir, naam, par exemple, elle a perdu les ablutions. Elle a perdu les ablutions parce que après l'Aïcha, pour dormir, des fois on reste 2-3 heures. Si elle a perdu les ablutions, c'est bien d'aller faire les ablutions et de mettre dans l'intention deux choses. La première, c'est 2 rak'at, c'est pour l'ablution que j'ai perdu. Et la deuxième, c'est 2 rak'at, c'est aussi pour qiyam l'il, avant de dormir. Naam. Et elle s'endort, masha'Allah, après avoir fait ces 2 rak'at. Ça, c'est masha'Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Est-ce que c'était la dixième question?
Jazakallahu khayran wa barakallahu fik ya Sheikh. Naam, c'était la dernière question, c'était la dixième question. Donc, on vous remercie pour ce cours et pour ces questions-réponses, ya Sheikh. Donc, c'est fini pour les questions-réponses. Tfadal ya Sheikh, wa jazakallahu khayran.
Donc, barakallahu fikum pour avoir assisté. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la sincérité. Allah subhanahu wa ta'ala raffermisse nos cœurs sur la droiture et sur Sirat al-Mustaqim. Jusqu'à le rencontrer ravi de nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse nos malades. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala paye nos dettes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse revenir yani, ceux d'entre nous qui sont loin de nous. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala yani, rapproche entre nos cœurs dans ce qui comporte son ravissement. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.